7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 25 mars et Paris est aux accents, à des accents chinois aujourd'hui. Le président Xi Jinping s'y installe pour 2 jours, visite officielle et dîner d'État ce soir à l'Elysée. Les appétits de la superpuissance chinoise et la riposte qu'envisage l'Europe. C'est le président Macron qui est à la manœuvre. Dossier complet ce matin sur Europe 1. Très vite, dans le journal de 7h, on en parle avec Hélène Zélani à 7h40. Dans l'édito de Jean-Michel Apathy à 7h45, décryptage avec le patron de l'Institut français des relations internationales, Thierry de Montbrial. Il sera mon invité. La réforme des retraites, à quel âge faut-il partir ? Actifs et retraités n'ont pas le même point de vue. La guerre des générations est lancée. On en parle avec Axel de Tarlet à 7h43. Et à 7h20, le revirement spectaculaire de l'armée et du parti présidentiel en Algérie. Pour la première fois, il lâche publiquement le président Bouteflika. On rejoindra notre envoyé spécial sur place dans Europe. On va plus loin dans quelques instants. Ça, c'est le programme. C'est ce qui est prévu. Mais une matinale, on l'a fait ensemble et on l'a fait avec l'info. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 25 mars. Il est 7h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
La plus belle, Hélène Zélani, est avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Et c'est un nouvel effet du légendaire franc-parler d'Emmanuel Macron. Le président souhaite une forme de sagesse à la militante de 73 ans blessée lors de la manifestation de Nice samedi. Décryptage de Mickaël Darmon. Donald Trump aux anges. Le président américain est blanchi par le procureur qui a enquêté sur une éventuelle entente avec la Russie lors de la dernière présidentielle. Et puis demain matin, 10 millions de billets Ouigo seront en vente pour cet été. Des trajets TGV à partir de 10 euros. Certains voyageurs ont déjà prévu une nuit blanche devant leur ordinateur.
Gilets jaunes, grand débat, 8h15, Ségolène Royal, aujourd'hui ambassadrice des pôles, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1. On a vu les images en boucle. Samedi, Geneviève Leguet, 73 ans, était grièvement blessée à la tête lors d'une charge de la police pendant la manifestation des Gilets jaunes de Nice. Elle souffre de plusieurs fractures du crâne. Ce matin, Emmanuel Macron réagit pour la première fois avec des mots qui ne manqueront pas de faire polémique. Dans Nice matin, le chef de l'État lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Et il martèle, il faut avoir un comportement responsable. Évidemment, ces déclarations sont loin d'être anodines. Mickaël Darmon, quel message envoie le président ?
Eh bien d'abord, c'est du Macron pur jus, hein, avec un zeste de provocation. Souhaiter une forme de sagesse à une dame de 70 ans de la part d'un homme de 40 ans. On voit à quel point le président de la République n'est pas embarrassé par les codes. Il peut aussi bien recadrer des ados que des seniors. Mais bien évidemment, le message est politique. Aucune compassion pour les manifestants qui se rendent dans les lieux interdits. Emmanuel Macron en profite ainsi pour rappeler sa vision des manifestations depuis des semaines. Ceux qui y participent se rendent complices des violences. Dans le cas précis, le président souligne que la dame blessée n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Il la renvoie donc à sa responsabilité sans s'apitoyer sur son sort et rappelle, dans le sud de la France où l'on vote beaucoup à droite, que le gouvernement a pour mission de faire respecter l'ordre public. Avec cette crise, on voit bien qu'Emmanuel Macron a bien compris que la politique, c'est un métier.
Mickaël Darmon et la famille de Geneviève Leguet comptent porter plainte aujourd'hui à Nice contre la police et le préfet pour violence volontaire.
Nice, où le président chinois a passé la nuit dans un hôtel de luxe de la promenade des Anglais.
Xi Jinping a d'ailleurs apporté son propre lit hier soir. Il était reçu par Emmanuel Macron pour un dîner privé à la villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Mer. Toute la journée, de nombreux expatriés chinois ont cherché à voir leur président. Mission quasi impossible, comme l'a constaté Frédéric Michel.
Gares et ports fermés, autoroutes coupées, il fallait être patient pour se déplacer sur la Côte d'Azur hier.
On a passé plus de 3 heures sur l'autoroute. Tout le monde est dans la panique. Je comprends pas pourquoi le président chinois il a ses privilèges.
Ouais, c'est aberrant même.
Beaucoup plus enthousiastes, les dizaines de Chinois présents dans Nice, comme Lian, venu spécialement de Pékin pour l'occasion.
Je viens de voir une vidéo de président Xi Jinping et président Macron. Ils vont revenir très tard.
Mais impossible même pour des Chinois de se rapprocher du Negresco. Des centaines de policiers et gendarmes quadrillent la zone.
Non, la promenade est fermée.
Weizen, Yi, Shefan et Bowen étudient à Nice.
On a attendu tout l'après-midi pour voir le président. Même voir sa voiture. Sa voiture est impressionnante, que c'est une marque chinoise.
Une Runxi, la voiture mythique des présidents chinois.
Ben, franchement, on aime bien notre président.
On voudra profiter bien si on veut voir notre président. Ça nous fait tellement de plaisir.
Mais c'est loin des regards que le cortège présidentiel est arrivé au Negresco peu après 22 heures.
Du coup, on ne l'a pas vu, mais bon,
c'est normal pour la raison sécurité.
Et jusqu'au départ ce midi de Xi Jinping et son épouse, Nice restera en état de siège.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1. Le président chinois arrive à Paris cet après-midi pour le coup d'envoi officiel de sa visite. Emmanuel Macron l'accueillera formellement sous l'Arc de Triomphe. Visite qui sera l'occasion de signer des contrats commerciaux et des accords de coopération.
Donald Trump soulagé et il le fait savoir.
Oui, le président américain a le sourire. Après 2 ans d'investigation, le procureur spécial nommé pour enquêter sur son élection n'a rien trouvé, ou presque, Xavier Yvon. Aucune preuve de conspiration de Donald Trump ou de ses proches avec la Russie pour influencer la campagne présidentielle de 2016.
D'excellente humeur après son week-end de golf en Floride, Donald Trump a crié victoire devant les caméras et sur Twitter. Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation totale, a triomphé le président américain. L'objet de sa jubilation, ce sont les 4 pages rédigées par son ministre de la Justice pour résumer l'enquête du procureur Mueller. Oui, écrit-il, les Russes ont bien tenté d'influencer l'élection de 2016 en faveur de Donald Trump, notamment en piratant les emails de l'équipe d'Hillary Clinton. Mais non, il n'y a eu aucune entente, aucune coordination entre le camp Trump et Moscou. Autre question cruciale, Donald Trump a-t-il tenté d'empêcher la justice d'enquêter sur lui ? Peut-être. Le procureur Robert Mueller ne peut pas le prouver, mais il n'exonère pas non plus le président. C'est la brèche dans laquelle se sont engouffrés les démocrates. Il réclame la publication du rapport en entier, que seul le ministère de la Justice a pu consulter. Ils promettent de ne pas lâcher l'affaire tant qu'ils n'auront pas vu tous les éléments eux-mêmes. En attendant, Donald Trump, lui, se retrouve gonflé à bloc pour la deuxième moitié de sa présidence et sa campagne de réélection en 2020. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
À Londres, Theresa May réunit son gouvernement ce matin alors que des rumeurs étaient à la une de la presse britannique ce week-end sur un complot pour la renverser. La pétition pour lui demander de renoncer au Brexit a déjà rassemblé plus de 5 millions de signatures en 5 jours. Et puis ce matin, une roquette a frappé le nord de Tel Aviv. 5 Israéliens ont été légèrement blessés.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, la chasse aux bonnes affaires pour les TGV de cet été qui commence la nuit prochaine. On vous dit tout dans quelques instants. A tout de suite, bon réveil.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Bonne journée à tous. Si vous devez prendre le train cet été, eh bien la SNCF s'apprête à mettre en vente ses billets TGV low cost.
Oui, 10 millions de billets Ouigo pour 36 destinations seront mises en vente dès demain 6h avec des prix à partir de 10 euros. Certains sont prêts à tout pour dégoter les meilleures affaires comme ce couple rencontré par Kevin Tuillier.
C'est devenu un rituel pour Marie-Françoise et Alain. Tous les 6 mois, l'ouverture des ventes Ouigo, ces retraités qui vivent dans le Var s'installent dès minuit devant leur ordinateur, prêts à passer une nuit blanche pour essayer de réserver leur billet de train au meilleur prix et leur permettre de retrouver leurs petits-enfants dans le Nord au mois d'août.
En général, c'est 6 heures. Mais à 6 heures, s'ils sont passés à 3 heures qu'ils ont commencé, 6 heures, c'est plus les mêmes tarifs. Hein. Moi, à partir de minuit, je reste devant l'ordinateur jusqu'à 6 heures. Et je clique, je fais autre chose, mais je clique sur le site pour voir si c'est ouvert ou pas. Bah, c'est lent, mais ça vaut le coup. Par rapport à un retour en voiture, c'est plus de la moitié, plus de 50%.
Que ça permet à beaucoup de personnes de voyager davantage, nous les premiers. Si on n'avait pas ça, je pense qu'on reviendrait moins souvent.
Grâce à cette méthode, les retraités font l'aller-retour dans le Nord parfois pour une centaine d'euros, mais il faut préparer son voyage en amont car les billets ne sont ni échangeables ni remboursables. Au total, ce sont plus de 10 millions de billets Ouigo qui seront mis en vente demain matin.
Kevin Tuillier, billets pour des trajets du 6 juillet au 14 décembre. Mmh. 7 marques d'implants mammaires pourraient être interdites en France. Un projet de l'ANSM, l'Agence nationale des produits de santé, qui doit rendre prochainement sa décision. Ces 7 marques sont susceptibles de constituer un danger rare mais grave d'un type de cancer. Chez les femmes qui en portent, 56 cas ont été recensés depuis 2011.
L'une des plus riches familles d'Allemagne reconnaît ses liens avec le régime nazi.
Oui, la famille Reimann qui s'est elle-même plongée dans son passé et a ainsi découvert le rôle de certains de ses aïeux pour soutenir la montée au pouvoir d'Hitler dans les années 30. À Berlin, Hélène Kohl.
Les Reimann sont une famille discrète. D'ailleurs, jusqu'à la mort du patriarche, les héritiers ignoraient tout de l'immensité réelle de leur richesse, 33 milliards d'euros au total, grâce à des marques comme Calgon, mais aussi Senseo, les parfums Calvin Klein ou encore la chaîne de restauration rapide Prêt-à-manger. C'est surtout dans les années 30, sous le nazisme, que l'entreprise familiale décolle. Alors, il y a 4 ans, les descendants mandatent un historien pour faire toute la lumière sur le rôle de leur père et de leur grand-père à cette époque. En fait, Ces deux Rayman-là auraient dû finir leur vie en prison, dit le porte-parole du groupe, car ils font partie de ce petit cercle de nazis convaincus qui ont soutenu Hitler avant même son accession au pouvoir. Ils font des dons au SS dès 1931. Ensuite, l'entreprise profite du travail forcé de prisonniers et de déportés, notamment beaucoup de Français. Aujourd'hui, la famille se dit soulagée que tout cela sorte et elle compte, pour compenser symboliquement, verser 10 millions d'euros à des associations. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et puis du foot au programme ce soir. Ah. France-Islande à 20h45, deuxième match de qualification pour l'Euro 2020.
Merci Hélène Zélani pour le journal de 7h. Belle journée à vous.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain cette semaine, Nico.
Vous êtes où, Carole, ce matin? Vous êtes où? Bonjour à vous.
Bonjour Nico, bonjour à tous. Je suis à Angers avec des auxiliaires de vie. Mmh. Oui, parce que vous savez, un rapport sur la dépendance doit être remis cette semaine à la ministre de la Santé. Et vous l'avez peut-être vécu, vous, auditeurs, pour vous, pour vos parents. Mais il est devenu extrêmement difficile de recruter une auxiliaire de vie. Trop peu de candidats parce que c'est un travail difficile, mal valorisé. Pour m'en rendre compte, j'ai accompagné hier Laurence dans son quotidien. Premier patient à 8h, on était quand même dimanche, pour la toilette. 4 interventions plus tard, elle donne son repas à monsieur Vénard qui vit avec son épouse de 83 ans.
Bonjour, ça va ce matin? Impeccable. Alors, monsieur Vénard, c'est une salade de gésier que vous allez manger ce midi. Hop là. Bon, là, c'est quand même une intervention de 30 minutes. Donc, voilà, je ne peux pas aller plus vite que monsieur Vénard peut manger. Donc, c'est un petit peu plus lent. Il faut qu'il prenne son temps. Et ce qui fait que souvent, je n'ai pas terminé avant l'heure. Donc, du coup, c'est toujours compliqué pour nous de devoir, à un moment donné, dire à la personne, bah, écoutez, là, ça y est, il faut se dépêcher parce que le temps passe.
Et que vous avez un autre patient qui vous attend derrière.
Et puis aussi, tout temps dépassé et facturé à la personne, mais du coup facturé sans l'aide financière. Et c'est parfois assez compliqué.
Et pour vous, madame, c'est important d'avoir une auxiliaire de vie?
Si je ne les avais pas, je pourrais pas garder mon mari. Je serais très très malheureuse de le voir en EHPAD. Moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que quand il se réveille le matin, il sait bien que c'est moi qui viens, qui lui fait un bisou. Il n'aurait pas tout ça, il serait malheureux.
Oui, ça veut dire aussi beaucoup de trajets, Carole.
Exactement, il faut gérer les embouteillages, le manque de place pour se garer, surtout en ville. Tout ça ajoute à la fatigue d'un métier devenu beaucoup plus physique. En 32 ans, Laurence a bien vu évoluer le métier, mais pas sa rémunération.
On accompagnait plus les personnes sur le ménage, pour aller faire des courses. Aujourd'hui, on en est vraiment sorti de ça. On accompagne vraiment les personnes dans tous leurs besoins au quotidien. L'aide à la toilette, l'aide au repas, l'aide au lever, l'aide au coucher. Ce qui fait qu'on peut commencer à 8h le matin, finir à 20h le soir. Nous avons une évolution qui a été considérable depuis quelques temps.
Voilà, il faut malgré tout réussir à garder le contact humain, inhérent bien sûr à ce métier.
C'est la clé.
Et oui, bien sûr, mais parfois, me confier Laurence, eh bien, sa patience est mise à rude épreuve.
Alors, Carole Ferry, vous êtes avec le directeur de l'association d'aide à domicile Anjou Soins Service, c'est Antoine Masson. Hein. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
On vient d'entendre les difficultés auxquelles sont confrontés au quotidien les auxiliaires de vie. Est-ce que pour vous, ce rapport sur la dépendance et la loi qui devrait en découler, ça peut changer quelque chose sur le terrain?
Je crois que votre reporter l'a montré, le métier est effectivement difficile, en tout cas pour ses conditions d'emploi. Mmh. Le métier est pourtant très relationnel et comporte des aspects très agréables. Mais vous voyez, si on prend deux exemples, en 2019, l'État nous octroie royalement 0,2% d'augmentation des salaires.
D'accord.
Une récente mesure sur les déplacements vient juste d'être votée. Il n'y a que 5 départements, dont le nôtre, qui l'appliquent sur la totalité des départements français. Mmh.
Donc c'est un métier nécessaire, mais il faut aider en fait les auxiliaires de vie.
Voilà. Et alors c'est pour ça que le rapport Libo, que nous attendons avec beaucoup d'attention, le réseau UNA dont nous faisons partie, s'est beaucoup investi dans ce rapport. Il y a eu, vous le savez, une grande concertation, on a joué le jeu. Mais en même temps, les associations d'aide et de soins à domicile, nous sommes habitués à un différentiel entre les discours et les actes des ministres de la Santé.
Ben nous, on va suivre.
Ils ont peur qu'il n'y ait pas assez de moyens, je crois.
On a compris. On va suivre cette semaine la remise de ce rapport à la ministre de la Santé. Et on vous tiendra au courant. Merci Antoine Masson, directeur de l'association d'aide à domicile Anjou Soins Service. Et évidemment, merci à notre reporter sur le terrain, quotidiennement et pour toute cette semaine encore, Carole Ferry. Bonne journée.
Nico Saliagas sur Europe 1.
L'édito écho avec Nicolas Barré. Le voici en studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nikos.
Plus question de subir le diktat des lois américaines. La France veut mieux protéger ses entreprises et la riposte arrive.
Oui, parce que les lois américaines sont un outil, un instrument de la guerre économique.
Vous nous direz tout dans quelques instants, puis à 7h20, les manifestations en Algérie et le changement de ton spectaculaire du parti au pouvoir et de l'armée nous intéressent, puisqu'ils lâchent publiquement Abdelaziz Bouteflika. À quoi assiste-t-on ? Revirement ou coup de com' ? Nous serons avec notre envoyé spécial à Alger pour un dossier complet dans Europe 1. Va plus loin, tout de suite.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 7h14.
Le chèque énergie arrive à partir d'aujourd'hui dans les boîtes aux lettres. Ce coup de pouce aux plus modestes pour payer leur facture énergétique doit bénéficier à 5 800 000 foyers. La famille de la militante de 73 ans blessée samedi lors de la manifestation de Nice doit déposer plainte aujourd'hui. Emmanuel Macron réagit pour la première fois dans Nice matin. Il souhaite à cette femme un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse, selon ses termes. Donald Trump va pouvoir se présenter sereinement pour un deuxième mandat présidentiel. Le procureur américain Mueller le dédouane de toute collusion avec la Russie lors de l'élection de 2016. Football, France-Islande ce soir, nouvelle rencontre de qualification pour l'Euro 2020, après la victoire facile face à la Moldavie.
Europe 1. Nico, on passe à l'édito éco avec la Banque Tarnot, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Tarnot, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et avec nous, comme tous les jours, Nicolas Barret, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors c'est un nouveau signe de tension entre alliés. Régulièrement, de grandes entreprises européennes sont sanctionnées par des juges américains qui ont tendance à considérer que leurs lois sont valables pour le monde entier. Mais la France, cette fois-ci, veut riposter, Nicolas.
Oui, tout simplement parce que ça fait un moment qu'on s'agace, pour ne pas dire plus, contre des procédures judiciaires américaines qui visent ces fleurons européens et que l'on soupçonne les États-Unis d'utiliser ces procédures pour affaiblir des concurrents ou même mettre la main sur des secrets industriels. On pense par exemple à Airbus, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption et qui, du fait de la loi américaine, est contraint de communiquer au département de la justice une foule de documents internes, d'ouvrir ses ordinateurs, etc. On pense aussi à Alstom ou encore à Nokia, qui chutait en bourse d'ailleurs vendredi à la suite d'une enquête du même genre.
Et face à ces procédures, Nicolas, est-ce qu'on a les moyens, nous, Européens, pour riposter ?
Alors, c'est très difficile. Les services du Premier ministre, de Bercy, du ministère de la Justice, travaillent à un texte qui permettrait aux entreprises de refuser de transmettre à une autorité étrangère des données portant atteinte aux intérêts économiques français sous peine de lourdes sanctions, 2 millions d'euros d'amende pour un particulier, 2 ans de prison. De quoi donc dissuader d'obéir à ces injonctions d'une juridiction étrangère ? La limite, évidemment, c'est que l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure aux États-Unis risque vite de se retrouver face à un dilemme. C'est-à-dire soit ne pas obéir à la justice américaine et risquer de se voir interdire l'accès au marché américain, ou obéir et du coup se voir sanctionner en France. Alors pourquoi le gouvernement veut-il légiférer ? Eh bien, parce que, comme le souligne un rapport qui vient d'être remis à Matignon, la justice américaine est soupçonnée d'être instrumentalisée à des fins de guerre économique. Le rapport en veut pour preuve que la plupart des entreprises visées par des procédures de sanctions aux États-Unis, eh bien, elles sont européennes. Il n'y a pas une entreprise chinoise ou pas une entreprise russe, par exemple.
D'accord. Et Paris, de son côté, vise aussi les GAFA, et également pour des raisons de guerre économique.
Oui, alors parce qu'une loi américaine qui vient d'être adoptée il y a quelques mois, qui s'appelle le Cloud Act, oblige les GAFA à transmettre aux autorités américaines, si elles le demandent, toutes les données stockées à l'étranger, donc y compris des données qui concernent des entreprises européennes. Autrement dit, les données que stockent Google ou Amazon sur telle ou telle entreprise française peuvent très bien se retrouver dans des mains de la justice américaine, sans même d'ailleurs que les intéressés le sachent. D'où la riposte. La France pourrait taxer les GAFA jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires en cas de transmission de données à une autorité étrangère. Vous le voyez, la guerre économique passe aussi par le droit, et en la matière, les États-Unis ont pas mal de longueur d'avance. Il est bon que la France réagisse, ce serait mieux qu'on le fasse au niveau européen.
Alors je ne sais pas si c'est lié, mais dans Le Parisien aujourd'hui en France, le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi, titre « Je suis en colère contre Amazon ».
Et ben voilà.
Amazon plutôt, voilà. Nicolas Barret, l'édito éco. Merci beaucoup Nicolas, demain.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Mais il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin ce matin, direction l'Algérie, Nikos.
Oui, où la contestation contre le pouvoir en place agite le pays depuis plus d'un mois maintenant. Rejoins notre envoyé spécial sur place, Mathieu Bock. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nikos.
Alors Mathieu, le FLN, le parti au pouvoir et l'armée prennent publiquement leur distance avec le président Abdelaziz Bouteflika. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air de calmer la rue, mais il faut dire que ces deux institutions, FLN et armée, partent de très loin.
Oui, en effet, la première réaction du FLN avait ulcéré les manifestants. Le parti historique au pouvoir depuis l'indépendance avait ironisé en déclarant que les contestataires pourraient obtenir gain de cause, mais dans une trentaine d'années seulement. Changement de ton ces derniers jours, le chef du parti dit comprendre les aspirations du peuple et se range derrière lui. Hier, il a même désavoué publiquement Abdelaziz Bouteflika en rejetant sa proposition de conférence nationale. Il appelle désormais à de nouvelles élections présidentielles. Mais cela ne convainc personne. Écoutez Marouane, pour lui, ce ralliement n'est pas seulement opportuniste, il est suspect.
Moi, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, vu que tous ceux qui ont déjà soutenu un cinquième mandat se retrouvent discrédités aux yeux de l'opinion publique. Moi, je pense que ce ralliement s'effectue un peu trop tard. Donc, le mouvement populaire connaît ces gens-là. Maintenant, il faudrait se poser des questions, connaissant les leaders de ces partis qui ont toujours répondu à des instructions. C'est des gens qui ne prennent pas d'initiative par hasard. Donc, qu'est-ce qui se cache devant ce ralliement, quelle est la stratégie, est-ce qu'on veut infiltrer le mouvement populaire, est-ce qu'on se prépare pour la période d'après, ça c'est des questions que nous devons vraiment nous poser et auxquelles nous devons rester vigilants.
Marouane au micro de Mathieu Bock. Du côté de l'armée, Mathieu, en Algérie on sait très bien, on connaît le poids de l'armée, on imagine que sa position est très attendue.
Oui, dans un premier temps, l'armée a elle aussi tapé du poing sur la table, mais la rue ne lui a pas obéi. Pragmatique, le chef d'état-major, le général Gaïd Salah, a récemment déclaré que l'armée se rangeait également du côté du peuple, au grand soulagement des manifestants comme Mohamed.
Ça rassure très bien les gens. C'est un encouragement pour continuer, parce que l'armée est avec le peuple. Même la dernière déclaration de Gaïd Salah, c'est un bon signe pour nous de continuer.
Comment analyser ces revirements, Mathieu, pour qu'on comprenne ici à Paris? Est-ce que ça veut dire que tout le monde est en train de lâcher Bouteflika et aussi sa garde rapprochée?
Eh bien écoutez, c'est la question que j'ai posée à Omar Belouchette, le directeur du quotidien El Watan. Pour lui, en effet, le clan présidentiel est abandonné de toutes parts, à commencer par le FLN donc, qui n'a convaincu personne en changeant de stratégie.
Un peu partout, les militants désertent les permanences, ceux qui restent retournent la veste. Mais laissez-moi vous dire que le FLN qu'on a connu participant à la gestion du pays catastrophique, à la répression de la population durant toutes ces dernières années, est un appareil qui aujourd'hui, du finissant, il est rejeté par la population.
Le FLN abandonne le président Bouteflika ?
Tout à fait. Il est abandonné par le FLN, il est abandonné par pas mal d'entrepreneurs qui l'ont soutenu, il est abandonné par le RND aussi, l'autre pilier du régime sur le plan politique. Le syndicat officiel, l'UGTA aussi, change de discours. Les racines de ce pouvoir sont en train de s'effriter. Le nouveau chef du gouvernement n'arrive même pas à trouver 10 nouveaux ministres à mettre dans le nouveau gouvernement. Ceux qui sont à la présidence, le président et son pourtour sont tout à fait aujourd'hui isolés.
Quel est le rôle de l'armée actuellement? Où en est l'armée?
On sent qu'il y a au sein de l'armée, au sein du collectif des généraux, une évolution considérable. L'armée qui dit « nous sommes avec le peuple ». C'est une déclaration qui a fait plaisir aux Algériens. Ils ont compris que les militaires n'étaient pas du tout sur une ligne de défense du clan présidentiel et n'étaient pas sur une ligne de répression.
Voilà Nikos, alors un dernier mot pour vous dire qu'au sein du FLN, certains députés vont encore plus loin et appellent publiquement au départ du président Bouteflika.
Merci Mathieu Bock pour cet état des lieux de la situation aujourd'hui en Algérie où les choses changent et où le pouvoir semble se fissurer. C'était un document de Europe 1, va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour avec vous Anis Mbida, bonjour.
Bonjour Nikos.
Un détecteur de mensonges, je vois sur ma fiche, qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est une messagerie qui va vous prévenir dès que votre interlocuteur est en train de vous mentir.
Mais sur mon téléphone?
Sur votre téléphone portable.
C'est vous qui m'avez envoyé un SMS?
Non, c'est pas moi, je te jure.
À tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1, il est 7h25. Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Nikos.
Attention, c'est peut-être une innovation qui va soit vous inquiéter, soit vous faire rêver. Ça dépend de quel côté vous vous situez. Un détecteur de mensonges pour les messageries. C'est-à-dire que si vous envoyez un SMS, un WhatsApp ou un Messenger, vous allez pouvoir être démasqué si vous mentez.
Oui. En plus, apparemment, c'est redoutable. On parle d'une précision de plus de 85%. Donc c'est fini, on ne pourra plus raconter des histoires. Imaginez, vous êtes en train d'envoyer un SMS, d'accord, un message. Qu'est-ce que tu faisais hier soir?
On dirait une machine.
Il y a quelques secondes après, la réponse arrive. Je n'ai pas bougé, je regardais la télévision tranquille. Et là, vous recevez en même temps une alerte. Attention, c'est un mensonge.
Qui reçoit l'alerte?
95%. Bah, celui qui reçoit la réponse. Ah, hein, se dit cette réponse est un mensonge à plus de 85%.
Donc celui qui l'envoie ne sait pas que l'autre a nécessairement une alerte.
Si, il le sait, parce qu'il a, lui, quand il reçoit la réponse, il a aussi une alerte, évidemment. C'est pas un système qui marche que dans un sens.
D'accord.
En fait, c'est une technique qui a été mise au point par des chercheurs de l'Université de l'État de Floride aux États-Unis. Mm-hmm. Ils ont analysé, décrypté des centaines de messages où certaines personnes disaient des mensonges, d'autres disaient la vérité. Mm-hmm. Et ensuite, une intelligence artificielle a repéré tout un tas d'indices parce que, par exemple, ceux qui mentent ont tendance à faire des micro-pauses pendant qu'ils tapent. Et donc, l'intelligence
artificielle. Le message.
Voilà,
mais ça,
ou
on peut le voir.
Ou
quand quelqu'un vous envoie un message sur WhatsApp ou ailleurs, on voit qu'il écrit.
Oui,
il
y a des petits points.
Il y a des petits points.
Oui, mais on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Là, l'analyse d'intelligence artificielle analyse tout ça et est capable de dire, avec une centaine d'indices, et sont capables de donner un indice de probabilité de la véracité, de la crédibilité du fameux message.
Ça va être intégré dans le SMS et les messageries comme WhatsApp, ça y est.
C'est ce qu'aimeraient les chercheurs, mais ce n'est pas sûr que vous, moi ou ceux qui nous écoutent seraient d'accord. Et en fait, il y a un type de messagerie qui, lui, est très intéressé, ce sont les messageries anonymes comme Telegram. Je ne sais pas si vous connaissez Telegram.
Oui, bien sûr.
Mais pourquoi ils sont intéressés? Parce que ça permettra de garantir que tout ce qui se dit dans la messagerie reste secret et qu'en plus, qu'on ne dit que la vérité.
Merci Anissé Mbida. On va attendre un peu. Merci beaucoup pour cette innovation. Mais c'est pas mal.
Vraiment. C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur EDF.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Ça vous inquiète, cette messagerie qui démasque tout le monde, Laurent Cabrol?
Moi, il me faut un joker, moi. Si vous me donnez un joker, je veux bien. Bon, eh bien, écoutez.
Dis quoi, le ciel?
Il dit que les nuages arrivent et vont gagner une grande partie de la France, excepté le bassin méditerranéen, mais que dans l'ensemble, ces nuages sont quasiment inoffensifs. Quelques gouttes de pluie dans le Bas-Rhin, et dans le Jura. Et puis partout ailleurs, certes, il y aura des passages nuageux, mais des éclaircies également. Et donc, ce n'est pas une journée forcément désagréable, avec des températures qui vont aller de 10 à 22 degrés, 22 à Montpellier, 19 à Marseille, 15 à Lyon, 14 à Rennes, 12 à Paris, c'est un peu frais quand même, 12 à Dijon, 11 à Nancy et Lille, et 10 degrés seulement à Verdun et Pinal. Donc un peu frais, compte tenu du vent, ça sera parfois très frais. Et puis voilà, pour le reste, eh bien, nous verrons cela tout à l'heure. Vous verrez que la journée, finalement, n'est pas si désagréable que ça.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure. Attention, à 7h40, Jean-Michel Apathy n'est pas content. On déroule le tapis rouge au président chinois. Il nous dira pourquoi. 7h43, Axel de Tarlé, guerre des générations sur la réforme des retraites. On vous dit tout. Excellent réveil à tous sur Europe
1. Nous sommes le lundi 25 mars, il est
7h30. 7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Il y a 7 ans, Mohamed Merah exécutait 7 personnes à Montauban et Toulouse, dont 3 enfants parce qu'ils étaient juifs. Le frère du tueur Abdelkader Merah en 2017 a été condamné à 20 ans de réclusion. Il est à nouveau jugé à partir d'aujourd'hui pour complicité de ses crimes. Tout l'enjeu pour l'accusation et les familles de victimes est d'obtenir une condamnation plus forte, Chloé Triomphe.
Oui, lors du premier verdict, les familles de victimes ont eu du mal à entendre que le frère du tueur au scooter n'ait pas écopé de la peine maximale, la perpétuité, et n'ait pas été condamné pour complicité d'assassinat, comme l'explique maître Patrick Lugman, l'avocat de la famille Sandler.
Quand on connaît la formation idéologique des deux frères, leur compagnonnage, le fait qu'ils se rapprochent exactement dans cette séquence-là, le fait que Abdelkader Merah est celui qui va fournir les instruments matériels, après avoir probablement fourni les nourritures intellectuelles à son frère pour commettre ses crimes, notamment évidemment le fameux scooter, Abdelkader Merah ne peut pas ne pas être le complice.
Mais cette vision du dossier n'avait pas convaincu les magistrats de la cour d'assises qui avaient estimé que l'existence d'une aide matérielle apportée en toute connaissance de cause à son frère Mohamed n'était pas suffisamment démontrée. Ce sera tout l'objet de ce procès en appel.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Un homme doit être présenté à la justice aujourd'hui. Il a reconnu avoir percuté un enfant de 2 ans et demi samedi à Lunéville. Le petit garçon n'a pas survécu. Le chauffard qui était au téléphone au moment du drame avait pris la fuite. Il a été identifié grâce à la vidéosurveillance de la ville et à des témoignages.
Les propos d'Emmanuel Macron risquent bien de faire réagir.
Dans un entretien accordé à Nice ce matin, le chef de l'État souhaite un prompt rétablissement à la manifestante de 73 ans qui a été blessée à Nice lors d'un rassemblement de gilets jaunes samedi. Emmanuel Macron qui ajoute qu'il lui souhaite aussi une forme de sagesse, précisant que lorsque l'on est fragile et qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. La famille de cette militante d'attaque va porter plainte aujourd'hui contre les policiers et le préfet. Célia Boumédien, secrétaire départementale Unité SGP police des Alpes-Maritimes affirme que ses collègues ont agi dans le respect de toutes les procédures.
C'est très difficile pour mes collègues d'être l'objet de critiques. Il faut rappeler le pourquoi de ces blessures de cette dame qui est regrettable, c'est qu'elle a participé en tant que manifestante, hein, pas en tant que passante, à une manifestation qui était interdite. Il y a eu des sommations demandant aux manifestants de se disperser. À partir du moment où vous restez, malgré cette interdiction et malgré les sommations, il y a des risques, effectivement, et malheureusement, d'être blessé. Il y a une enquête qui est en cours. Il faut laisser l'enquête se faire sur les raisons pour lesquelles il y a eu ces blessures. Maintenant, pour moi, la charge était proportionnée. Mes collègues ne sont pas là pour blesser.
Un propos recueilli par Théo Manval. Le président chinois attendu aujourd'hui à Paris, il a déjà rencontré Emmanuel Macron hier à Beaulieu-sur-Mer. Au programme aujourd'hui, séance de travail ainsi qu'un dîner d'État à l'Élysée.
Un an des élections municipales, l'association des maires ruraux de France lance un appel sur Europe 1.
Oui, les maires demandent aux Français, à leurs administrés, de s'engager massivement et concrètement pour les élections. Les élus signent une tribune sur un site internet, tribune intitulée « Des communes et des citoyens ». Écoutez l'élu du village des Molières dans l'Essonne, il a coécrit le texte.
Le message, c'est de s'engager massivement pour la commune. Et on publie cette tribune un an avant parce qu'on croit vraiment à l'intelligence collective. La commune, c'est un lieu où la démocratie peut vraiment être une pratique. Et si on s'implique collectivement, qu'on travaille réellement un projet en amont, on peut, à l'occasion des élections municipales de 2020, avoir un vrai renouvellement des pratiques politiques. C'est pas le tout de critiquer la politique, de rester spectateur. Il y a réellement des choses à faire. La politique, elle n'est pas réservée à des partis. C'est un appel à tous les citoyens. J'habite dans ma commune, dans mon village, dans mon quartier et il faut que je participe. C'est une initiative hors des partis. Nous, on va mettre en relation les gens en espérant qu'il y ait beaucoup de listes participatives qui se montent un peu partout en France.
Yvan Lubraneski, président des maires ruraux de l'Essonne, avec Sébastien Krebs. Benjamin Netanyahou promet de riposter avec force. Déclaration il y a quelques minutes du premier ministre israélien après le lancement d'une roquette qui a touché ce matin une maison au nord de Tel Aviv, provoquant un incendie. 5 personnes ont été blessés. Benjamin Netanyahou, qui a décidé d'écourter sa visite aux États-Unis juste avant de partir, il va s'entretenir avec Donald Trump.
Alors vous êtes peut-être tranquillement en train de siroter votre café à la maison ou au boulot, vous êtes en train de boire votre thé. Attention à ne pas le boire trop chaud.
Oui, une étude révèle que cela pourrait favoriser un cancer de l'œsophage. Il faut savoir qu'en France, 5000 cancers de ce type sont diagnostiqués chaque année. Dans la plupart des cas, ils sont dus à l'alcool ou au tabac. La chaleur des boissons est aussi un facteur de risque, Ève Roger.
C'est grâce à un vaste échantillon de 50 000 personnes que les chercheurs ont pu démontrer que ceux qui buvaient du thé bouillant et beaucoup, plus d'un litre par jour, augmentaient de 90% leur risque de développer un cancer de l'œsophage en raison de deux phénomènes, explique le professeur Jean-François Maurer, cancérologue à l'hôpital Paul Brousse à Paris.
Si vous buvez en continu des choses qui sont extrêmement chaudes, vous avez une irritation permanente de la muqueuse de l'œsophage. Si vous buvez de l'alcool ou si vous fumez en même temps, les substances cancéreuses peuvent rentrer plus facilement à l'intérieur. Donc il y a un double mécanisme de cancérisation de l'œsophage.
L'étude précise que la température de l'eau ne doit donc pas dépasser 60 degrés au moment où on la boit. Mais comment le savoir? Nous sommes allés au comptoir d'un café et la surprise du barman.
Entre 70 et 80 degrés. C'est la machine qui est réglée comme ça. Mais je ne savais pas que 60 degrés, c'était un problème pour l'œsophage. D'où l'intérêt de laisser refroidir un petit peu avant de boire son café.
Et justement, nous avons pu faire le test grâce à un mug connecté. Il a fallu attendre 17 minutes pour qu'une eau à 90 degrés descende à 60. Alors patience.
Voilà, faut être patient. Eh, merci à
vous. Je prends un café froid, s'il vous plaît.
Et en football, la France affronte l'Islande ce soir au Stade de France dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Coup d'envoi 20h45.
Ou un thé glacé. Merci Céline. Céline Kalman pour le journal de 7h30.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Monsieur Apathy.
Bonjour Nikos.
Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Eh ben, ce matin, un événement, puisque l'homme le plus puissant du monde et qui est aussi le plus grand dictateur du monde est en France, c'est le président chinois, le président Xi Jinping. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on commence à avoir moins peur de lui, parce que jusqu'à présent, on avait très peur de lui. Alors, on relève un peu la tête, c'est une bonne nouvelle.
Vous voulez vous faire des amis à Pékin, vous, hein, ce matin?
Oui, là, j'en ai plein d'amis à Pékin. Je leur dis bonjour.
À tout de suite, Axel de Tarléon, par où?
Je parle de la réforme des retraites avec un début de guerre des générations.
Bah tout de suite messieurs, à Paty Tarlé sur Europe 1, c'est juste après ça. Bon réveil à tous.
Il est 7h38.
Il est 7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et le président chinois Xi Jinping est en visite officielle en France après Nice hier, Paris aujourd'hui, oui. Avec un dîner d'État ce soir à l'Élysée. Jean-Michel, ça ne vous met pas de bonne humeur qu'il soit là ?
Ah si, moi ça me met de très bonne humeur, mais c'est évidemment une visite hors norme, parce que la Chine, c'est aujourd'hui la puissance politique et économique pratiquement la plus importante au monde, où si elle n'a pas encore dépassé l'américaine, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce sera sans doute l'immense puissance économique mondial et politique au monde. Donc évidemment, quand on reçoit Xi Jinping, je ne sais pas si on me prononce bien, on verra avec...
Je crois qu'il faut dire Xi pour le
Nicolas Cantu, si, voilà. Mais moi c'est avec l'accent basque que je le dis, donc ouais. C'est un peu différent. Donc c'est un événement qui se matérialise avec un tapis hier à l'aéroport de Nice, un tapis rouge 40 mètres de long, l'un des plus longs selon la diplomatie française. C'est un peu ridicule, en même temps, ça dit quelque chose. La région PACA pratiquement bloquée hier, c'est quand même incroyable. Bon. Et dîner d'État ce soir à l'Élysée, on a sorti Alain Delon et Jean-Pierre Raffarin, on peut pas faire mieux. Hélène Rollès aussi, d'Hélène et les garçons, puisque
très populaire,
elle est populaire en Chine. Voilà. Et alors là, monsieur Xi Jinping, il va être content de cet accueil. La vérité, c'est que la Chine nous fait peur. Ou du moins, on commence à avouer que la Chine nous fait peur. Parce que la Chine investit partout en Europe, elle achète des entreprises, elle achète les vignobles français, bientôt tout le Bordelais sera aux mains des Chinois. Enfin, la Chine commence à mal contrôler sa puissance. Quand on est très puissant, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et la Chine est en train petit à petit de lâcher les freins. Et ça, ça commence à faire peur. Il y a eu en France notamment des agents d'influence pour la Chine, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui nous a dit « Mais non, c'est des gens pacifiques, gentils. » Oui, mais c'est pas vrai en fait.
Mais c'était pas un agent d'influence, quoi. C'était un philo.
Mais c'est une puissance qui cherche à s'affirmer, qui a les moyens de le faire, et donc elle le fait. Ils espionnent, ils copient, voire ils spolient, et en fait, ça peut devenir les maîtres du monde, et on n'a pas tous forcément envie d'apprendre le chinois en deuxième langue. Il faut noter que demain va se produire un événement à l'occasion de la visite du président chinois. C'est qu'à l'Elysée vont se retrouver avec Emmanuel Macron, Angela Merkel, la chancelière allemande, d'accord, qui vient spécialement de Berlin, c'est une première, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour que l'Europe tente, même si elle n'est pas tout à fait unie sur la question, de faire face à la puissance chinoise qui monte. Il ne s'agit pas de déclarer à la Chine, il s'agit aussi de se préserver de la Chine. La visite d'État aujourd'hui est un événement qu'il faut regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire que les Chinois sont nos amis, mais ce ne sont pas forcément que nos amis, et il faut en avoir conscience.
Là, vous savez, on va parler de ces craintes des vieux pays, du vieux continent, justement, vis-à-vis de l'émergence de la Chine, l'émergence économique. On va en parler avec Thierry de Montbrial, le président fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Dans quelques instants, il sera mon invité à 7h45. Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé, on reste en France. Guerre des générations sur les retraites. Actifs et retraités n'ont pas les mêmes intérêts. Et ça commence à se voir.
Oui, êtes-vous d'accord pour travailler plus longtemps ? Pour prendre votre retraite plus tard ? Eh bien, la réponse à cette question dépend de votre âge. Si vous avez moins de 64 ans, donc si vous êtes actif, la réponse est non, je ne veux pas travailler plus longtemps, je veux partir à la retraite. Sondage Harris Interactive pour Le Figaro.
D'accord.
Seuls 28% des 50-64 ans sont d'accord pour relever l'âge de départ à la retraite. Vous voyez, c'est pas beaucoup. En revanche, si vous êtes déjà à la retraite, plus de 64 ans, ah ben là, la réponse est tout à fait différente. Vous avez une majorité de retraités, 55%, qui est favorable au relèvement de l'âge de départ. Alors, vous allez
pour
dire,
quelle raison ?
Eh ben, ça ne les concerne plus. Et c'est là où on commence à avoir ce qu'on appelle une guerre de génération. Vous savez, c'est simple, hein, le régime de retraite, il n'y a que trois paramètres. On peut ou faire payer les entreprises, mais ça on ne le fait plus, c'est mauvais pour la compétitivité. Donc il reste deux solutions, ou on demande aux actifs de travailler plus, ou on demande aux retraités de gagner moins. Et ça, c'est la solution qu'avait imaginée Emmanuel Macron. Donc, on relève la CSG pour les retraités, on désindexe leurs pensions. Ce qui est quand même assez angoissant, parce que ça veut dire que tout augmente, les prix augmentent, mais les pensions ne suivent pas. Donc, vous voyez, c'est la paupérisation assurée. Il y a ce sondage quand même très clair d'IFOP pour CNews. 98% des retraités estiment qu'ils sont les perdants de cette politique Macron. Le problème, c'est que les retraités votent beaucoup. Donc, on change de braquet, plus question de taper sur les retraités, et on va donc taper sur les actifs. Alors d'abord, on va réindexer la retraite sur l'inflation, et donc on va s'en prendre aux actifs. Alors c'est la petite musique qu'on entend depuis une dizaine de jours, on va demander aux actifs de travailler plus longtemps. En fait, on dit qu'on va les inciter voilà, à travailler plus, mais là aussi, ça risque de faire des mécontents.
Merci Axel de Tarlé pour le Zoom Éco sur Europe.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Alors on vient de l'évoquer, l'Europe face au rouleau compresseur chinois. Qu'en pensez-vous? La Chine, une superpuissance qui fait peur aussi. Quelle riposte? Avec quels moyens? Dans un instant, je reçois Thierry de Montbrial, le président fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. A tout de suite.
Il est 7h44, à tout de suite sur Europe 1 avec Nikos Aliagas. Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
La famille de la septuagénaire blessée à la tête samedi à Nice va déposer plainte aujourd'hui pour violence volontaire. Dans un entretien à Nice matin, Emmanuel Macron souhaite à la militante d'attaque un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse, selon ses propres termes. Benjamin Netanyahou promet de riposter avec force, déclaration du Premier ministre israélien après le lancement d'une roquette qui a touché ce matin une maison au nord de Tel Aviv, provoquant un incendie. 5 personnes ont été blessées. Les qualifications à l'Euro 2020, 3 jours après leur victoire en Moldavie, 4-1, l'équipe de France de football retrouve le Stade de France et ses supporters ce soir. Ce sera face à l'Islande.
Europe 1.
Nikos Aliagas, après l'Italie, Monaco et Nice, le président chinois arrive aujourd'hui à Paris. Gouvernance mondiale, règles commerciales, respect de l'environnement, investissement, la superpuissance chinoise fait peur. L'Europe est-elle armée pour se défendre? Le combat n'est-il pas déjà perdu? Nikos, vous recevez Thierry de Montbrial, président fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Bonjour Thierry de Montbrial.
Bonjour.
Pendant des années en Europe et en France aussi, on disait aux Chinois: soyez les bienvenus, venez investir, vos milliards nous intéressent. Aujourd'hui, on a l'impression que la Chine est quasiment devenue, entre guillemets, l'ennemi qui met en péril les intérêts européens. Est-ce que c'est le cas et pourquoi ce changement?
Écoutez, je pense d'abord que si vous m'avez invité, c'est parce qu'on va célébrer le 40e anniversaire de l'IFRI et j'ai choisi comme thème pour une grande journée à la Sorbonne le 10 avril, l'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine.
Voilà.
Eh bien, tout est dit, je crois, dans ce titre. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Chine livrent bataille, en quelque sorte, partout dans le monde, mais en particulier en Europe.
Et nous, on est les témoins ou on est les victimes?
Ni témoins des victimes, on est un enjeu. Et toute la question, justement, c'est que nous ne soyons pas seulement des gens qui subissent cette compétition. Tout l'enjeu, c'est que les Européens deviennent aussi acteurs, pas seulement voyeurs ou proies.
Mais est-ce qu'on peut être acteur si la Chine multiplie des OPA sur des entreprises européennes dans des secteurs vitaux, par exemple? A-t-on les moyens aujourd'hui, nous, vieux continent et institutions européennes, pour lutter à armes égales face à ce géant chinois?
Alors, il faut tout d'abord nommer les problèmes. Là, vous le faites bien. D'une part, en effet, il y a ces entreprises qui sont achetées un petit peu partout. Mais derrière ça, il y a une véritable stratégie. Parce que Chinois cherchent en particulier à prendre position dans le maillon faible de l'Europe, qui est la partie orientale de l'Europe, les anciens pays communistes particulièrement. Songez par exemple que, après la crise de 2011, les Chinois ont acheté le port du Pirée en Grèce. Et on l'a peu remarqué à l'époque. À l'IFRI, d'ailleurs, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Et non seulement ça, mais ils investissent dans un chemin de fer qui va d'Athènes à Budapest. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les Chinois essayent de s'implanter, de jouer un rôle politique dans cette partie de l'Europe. Mais remarquez que les Américains font de même. Les États-Unis, par exemple, sont extrêmement actifs en Pologne. On voit bien que c'est dans la partie orientale de l'Europe que va se jouer d'abord cette compétition, ce qui a des implications pas seulement économiques, mais aussi politiques.
Orientale, mais aussi occidentale, quand on voit aussi que la Chine est entrée dans le capital de l'électricien portugais, qu'on parle de la route de la soie avec l'Italie qui est prête effectivement à collaborer et accueillir les milliards chinois. C'est-à-dire que vous voulez dire que d'un côté, quand ils voient qu'un pays est en crise, ils viennent pour s'y installer, mais pas seulement pour des raisons géopolitiques de moyen ou long terme.
Ce que je veux dire, c'est qu'on commence toujours par le maillon faible. Et le maillon faible, il est plutôt vers l'Est et vers le Sud. D'ailleurs, vous venez de mentionner l'Italie.
Ils jouent sur les divisions de l'Europe, les Chinois?
Bien sûr, mais tout le monde joue sur la division de l'Europe. Les Américains aussi jouent sur les divisions de l'Europe. Non seulement ils jouent sur les divisions de l'Europe, mais ils y contribuent d'ailleurs. Regardez ce que dit Trump sur l'Europe. Et alors, la route de la soie que vous citez, c'est une grande stratégie. Il faut vraiment un régime autoritaire pour pouvoir mettre en œuvre, concevoir d'ailleurs, et mettre en œuvre au cours de plusieurs années cette grande stratégie.
C'est quoi la route de la soie pour les auditeurs qui le connaissent de façon un peu...
Ben, ils connaissent Marco Polo, voilà. Mais c'est un peu ça si vous voulez, mais c'est tout au long de cette route qui fait rêver tout le monde, ça veut dire développer des investissements et des partenariats, mais dominés par les Chinois, pour arriver jusqu'à l'Europe, mais redescendre même à partir de l'Europe, à partir de la France, et à travers l'Espagne, etc., jusqu'en Afrique. Et n'oubliez pas que les Chinois sont également, et ils sont extrêmement actifs également en Chine. Donc il y a une véritable stratégie quasi-impériale, si vous voulez.
Face à la Chine, Emmanuel Macron, le président de la République, veut une position européenne commune. Demain, il fait venir à Paris l'Allemande Angela Merkel, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Est-ce qu'il va arriver, justement, à unir les Européens face à la Chine ?
Unir les Européens face à la Chine, j'en doute pour l'exemple que je viens de vous indiquer. D'ailleurs, ils sont déjà très actifs, par exemple, en République tchèque. Il y a eu même pas mal de manipulations chinoises, on peut dire. Mais il peut en tout cas quand même rapprocher. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les Allemands eux-mêmes ont pris vigoureusement conscience du risque sur les investissements, puisqu'ils, désormais, ils parlent ouvertement de protéger leurs industries, et donc aussi les nôtres, face à cette stratégie chinoise. Donc, entre la France et l'Allemagne, il y a du progrès sur ce plan-là, mais également avec la Commission européenne.
Mais Thierry de Montbrial, ça veut dire quoi ? Qu'il est déjà trop tard ? Que l'Europe n'a pas les moyens de rééquilibrer ses relations avec la Chine ? Qu'on n'a pas les leviers, justement, vis-à-vis de la Chine et des États-Unis pour imposer notre politique à la fois de protection et de proposition ?
Non, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les États-Unis se distancient de nous. L'Alliance Atlantique est aujourd'hui en péril. Et que donc, nous devons nous préparer à cette situation qui va dominer les décennies prochaines. Jean-Michel Apathy, d'ailleurs, parlait des 30 prochaines années. Il a parfaitement raison, parce qu'en 2049, c'est le 100e anniversaire de la victoire de Mao. Et l'objectif ouvert de la Chine, c'est d'être la première puissance mondiale d'ici là, et probablement avant. Mais en même temps, les États-Unis se sont un peu éloignés. Donc, il est essentiel pour l'Europe de prendre conscience de tout cela et de devenir un peu plus maîtresse de son propre destin. C'est ça, tout l'enjeu.
Être maîtresse de son propre destin, l'Europe, ça veut dire être plus unie ?
Ça veut dire être plus unie et raisonner stratégiquement. Raisonner stratégiquement, ça veut dire avoir une vision globale des enjeux, des rapports de force, etc. On est encore assez loin du compte.
On soupçonne aussi la Chine d'utiliser sa technologie pour nous espionner.
Non, ils ne sont pas les seuls.
Vous en pensez quoi ?
Qu'ils ne sont pas les seuls.
C'est-à-dire ?
Les Américains aussi, et grandement. Donc, nous sommes espionnés. L'espionnite, vous savez, est une maladie de toujours.
Mais on pensait que depuis la chute du mur, c'était terminé tout ça ?
Ah non, ça n'a
que
fait...
Que la guerre froide nous était vraiment un lointain souvenir.
Ouais, oui, mais il y a une nouvelle guerre froide. Et il y a une nouvelle guerre froide avec la Russie. D'ailleurs, ce serait encore une autre histoire. Mais enfin, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les nouvelles technologies, ce qu'on appelle nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles, d'ailleurs, qui se développent encore à toute vitesse.
La téléphonie mobile, la 5G, par exemple.
Absolument. Ben, tout cela facilite aussi grandement l'espionnage généralisé. J'espère bien, d'ailleurs, si vous permettez, que nous aussi, on espionne un peu les autres. J'espère un petit peu, quand même.
Sur notre téléphone, vous voulez dire
qu'on nous espionne. Sur tout ce qu'on peut.
Merci, Thierry de Montbrial, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et une date importante pour vous, c'est
2049.
Pourquoi ?
Ah, pour l'IFRI ?
Oui.
Ah, c'est 2019, 40e anniversaire de l'IFRI.
Voilà.
Et vous voyez, 2019, 40e anniversaire de l'IFRI, 2049, 100e anniversaire de la victoire de Mao.
Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin.
Merci à vous.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, dès le début du journal de 8h, la victoire symbolique de Donald Trump. Le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuve de collusion avec les Russes lors de l'élection de 2016. Vous l'entendrez, le président américain jubile et il ne le cache pas. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Ce matin, c'est pas banal, une mère et sa fille partagent le même cockpit aux commandes d'un avion de ligne. Si, si, vous allez voir.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h54. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
On va s'envoler ce matin avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, telle mère, telle fille, même dans les airs.
Oui, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce vol Delta Airlines entre Los Angeles et Atlanta. Liaison somme toute classique. Si ce n'est peut-être cette ambiance très familiale à l'avant dans le cockpit. Je vous emmène. Le commandant de bord est une commandante. Aujourd'hui, elle s'appelle Wendy Rexon. Et surtout, c'est sa fille, Kelly, qui occupe le poste de jeune copilote. Oui, les amis, alors, autant un père et son fils dans une compagnie, ça s'est déjà vu, autant une mère et sa fille, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Pour vous donner une idée, j'ai voulu vérifier ce matin, on navigue entre 0 et 10% de femmes pilotes, suivant les pays. On est d'accord que c'est encore très peu. À tel point qu'un passager décide d'immortaliser la scène, forcément. Wendy et Kelly, tout sourire, côte à côte, en uniforme, chemisette blanche, galon sur l'épaule, dans le cockpit, juste avant le décollage, il y a de la fierté dans le regard. Photo diffusée et ultra partagée sur les réseaux sociaux avec des commentaires enthousiastes, évidemment, des femmes exemplaires, source d'inspiration, et puis des commentaires drôles parfois, comme Sharon, elle écrit « Je serais incapable de piloter un avion avec ma mère, déjà qu'en voiture, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la radio. » Pas de ça, en tout cas, on l'a compris dans la famille Rexon, où l'on découvre d'ailleurs que tout le monde, ou presque, est pilote, grand-père, mari, et même la sœur de Kelly, une fille de plus, bref, c'est du girl power pur jus au-dessus des nuages. Et tiens, vous savez quoi ? Ce serait pas l'occasion rêvée de commencer la semaine avec du Beyoncé, par exemple.
Ça fait danser Céline Dacosta, en tout cas. Et peut-être même nos auditrices ou auditeurs ce matin. Merci Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour.
À suivre le journal de David Doucan qui danse aussi, il faut le dire. Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Lolo Cabrol.
Vous savez ce que redit Coluche ?
Allez-y.
Il y a la mère et la fille devant. C'est la cabine de pelotage.
Oh, dites-moi.
Ça c'est du Coluche.
C'est
hein.
Du Coluche, oui, c'est un peu phallocrate.
C'est bien de le préciser.
Voilà, mais bon, allez.
10 degrés à Verdun cet après-midi. On 11 degrés à Nancy et Lille. 12 à Paris, Clermont-Ferrand. 13 à Nantes, 14 à Rennes, 15 à Lyon, 16 à Nice, 17 à Toulouse, 19 à Marseille et 22 degrés à Montpellier, sont les températures maximales. En ce qui concerne la couleur du ciel, ma foi, ce sont un ciel souvent nuageux, Lorraine, Alsace, Ardennes, Alpes du Nord, Rhône, Auvergne, des nuages arrivent et se multiplient en matinée et des ondées cet après-midi, notamment dans le Bas-Rhin et le Jura. Ces nuages vont gagner tout le massif central, le centre, la Bourgogne et l'Orléanais, et les éclaircies vont l'emporter cette fois sur le sud-ouest et le bassin méditerranéen. À Paris, ce ne sera pas trop mal, voilà.
Merci beaucoup. Ça sera comment, pas trop mal ? Ensoleillé ou pas ?
Non, ce sera des éclaircies, mais nous aurons des éclaircies, mais elles seront minoritaires.
D'accord.
Comme sur la vallée de la Loire et le Poitou-Charentes. Éclaircies soleil, éclaircies nuages en alternance.
Merci, cher Laurent Cabrol. À tout à l'heure dans 30 minutes.
Et on va profiter de ces éclaircies ce matin sur Europe 1. Il est 8h, bienvenue à tous. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
8h05 et David Doucan est là dans les starting blocks. Bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Et tout d'un coup, l'horizon s'éclaircit pour Donald Trump. Le procureur Mueller n'a pas trouvé de preuve de collusion avec les Russes lors de l'élection de 2016. Chou blanc donc. Donald Trump est ravi, vous l'entendrez. Le deuxième procès Mera, le frère du terroriste, est jugé en appel à partir d'aujourd'hui pour complicité dans les tueries de Toulouse et de Montauban. Le témoignage de Latifah Ben Ziaten dans ce journal. Football, les Bleus affrontent l'Islande ce soir au Stade de France. Match de qualification pour l'Euro 2020. Vous entendrez le sélectionneur Didier Deschamps dans cette édition.
À 8h12, Vincent Hervouette revient sur le massacre de 130 personnes de l'ethnie Peul au Mali. À 8h15, grand débat gilet jaune. Elle fut la première à mettre en garde contre l'hystérie fiscale. Audrey Crespo-Mara reçoit Ségolène Royal.
C'est une disculpation totale et complète. Et c'est une honte que votre président ait eu à subir ça. C'est une tentative illégale pour me faire tomber. Ça a échoué.
Donald Trump triomphal. Après 2 ans d'enquête, le procureur spécial n'a rien trouvé. Le rapport de Robert Mueller, aucune preuve de conspiration avec Moscou pour influencer la campagne de 2016. Disculpation totale, dit Donald Trump. Avec nous, notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Est-il, Xavier, effectivement blanchi ? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant ?
Ah, ce qui est sûr, c'est que le ciel s'est éclairci au-dessus de Donald Trump. Le président américain est tellement soulagé qu'il a fini sa journée hier par cette phrase lâchée aux journalistes. L'Amérique, c'est le meilleur endroit de la planète. C'est vrai qu'avec ce résultat, Donald Trump sort renforcé, gonflé à bloc pour se faire réélire en 2020. Est-il totalement disculpé, comme il le clame ? Pas si vite, disent les démocrates. Donald Trump reste peut-être coupable d'avoir fait obstruction à l'enquête. Le procureur Robert Mueller ne l'exclut pas, mais il n'a pas assez de preuves. Les démocrates réclament donc la publication de son enquête dans son intégralité, puisque pour l'instant, seul un résumé de 4 pages a été présenté par le ministre de la Justice, qui est lui-même nommé par le président. Il reste aussi d'autres enquêtes en cours contre Donald Trump au Congrès ou au tribunal de New York. Elles visent notamment ses affaires, mais on est désormais très loin de la procédure d'impeachment dont rêvait une partie des démocrates.
Information et décryptage signé Xavier et Yvon. Merci à vous Xavier. Le président chinois en visite d'État en France à Nice depuis hier où il a dîné avec Emmanuel Macron. À Paris, aujourd'hui et demain, l'objectif du chef de l'État français est de persuader Xi Jinping de jouer selon les règles du multilatéralisme, en particulier dans le domaine commercial. Cela n'ira pas tout seul puisque Pékin entend bien profiter des divisions européennes sur le sujet.
Emmanuel Macron qui s'exprime aujourd'hui dans Nice Matin.
Oui, avec un commentaire qui ne manquera pas d'entraîner de nombreuses réactions. Le président souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse à la militante d'attaque grièvement blessée lors d'une manifestation. Manière de dire qu'elle n'aurait pas dû se trouver là, selon le président de la République, Emmanuel Macron.
Il y a 7 ans, Mohamed Merah assassinait 7 personnes, dont 3 enfants d'une école juive.
Les tueries de Toulouse et Montauban. Le djihadiste ayant été tué à l'époque lors de l'assaut, c'est son frère qui est devant la justice. Abdelkader Merah avait été condamné il y a un an pour association de malfaiteurs terroristes, mais la cour d'assises l'avait acquitté du chef de complicité. Inacceptable pour les familles des victimes, d'où le procès en appel qui commence aujourd'hui. Écoutez, la mère de l'un des militaires tués par Merah à Montauban, Latifa Ibenziaten, elle avait à l'époque été ulcérée par le comportement du prévenu.
L'année dernière, je suis sortie, j'arrivais même plus à marcher tellement que j'étais déçue, choquée, parce que c'est beau de garder le silence et de nous regarder, mais on voudrait savoir ce qui s'est passé exactement, comment il a guidé son frère, de quelle manière il l'a aidé. Voilà, c'est très important.
Quel souvenir vous gardez de lui, justement ?
Le souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il a dit « J'espère que mon petit frère sera au paradis ». Je trouvais ça d'indigne, soi-disant, quelqu'un qui connaît l'islam. On ne peut pas tuer cette personne et puis on dire on souhaiterait qu'elle sera au paradis. Je ne pense pas. Ce n'est pas des mouches qui sont tombées, c'est des humains. C'est des adultes, c'est des enfants, c'est des pères. Il faut qu'on se réveille, il ne faut pas qu'on reste naïf à ce point-là.
Latifa Ibenziaten avec Pierre Decossette pour Europe 1. Une roquette a frappé cette nuit une maison au nord de Tel Aviv. 5 personnes ont été légèrement blessées. Benjamin Netanyahou, actuellement aux États-Unis, a annoncé qu'il écourtait sa visite pour rentrer en Israël. Il a promis de, je cite, « riposter avec force ».
Retour en France avec cette histoire étonnante en Bretagne.
Oui, étonnante et même peut-être effrayante. Les éoliennes et les panneaux solaires sont-ils responsables de la mort inexpliquée de plusieurs centaines de vaches ? On soupçonne un taux anormalement élevé d'électricité dans les pâturages d'être la cause de cette surmortalité. Reportage dans les Côtes d'Armor, François Coulon.
Chez Patrick Lenéchet, l'hécatombe a débuté au moment précis où une installation photovoltaïque a vu le jour à proximité de l'exploitation.
Ils ont maigri, on a perdu 120 en 5 ans. Ça ne s'explique pas, même les vétérinaires ne savent pas quoi faire. On a fait des tests avec les appareils, on trouve bien du courant continu qui arrive dans la terre. C'est un désespoir complet. Quand on voit toutes les bêtes mourir, c'est intenable.
Des taux d'électricité de l'ordre de 1 volt ont été relevés dans le sol et dans l'eau de la ferme, 3 fois plus que le seuil acceptable pour les bêtes. À 30 km de là, à Alineuc, mortalité encore plus massive chez Stéphane Lebréchec.
Au bout de 6 mois, j'avais 37 mortes. Aujourd'hui, je suis à 200. Crise cardiaque ou AVC. J'ai trouvé à peu près 17 sources de nuisances entre éoliennes, antennes, transfo. Je panique. Aujourd'hui, j'ai investi 500 000 euros. Je ne peux pas payer mes factures. La situation est dramatique. Je m'étais dit que cette semaine, c'était la dernière semaine que je vivais. Il y a des gens qui se sont foutus en l'air. Ils n'ont pas su pourquoi ça ne marchait pas à leur exploitation.
Stéphane Lebréchec a porté plainte contre X. D'autres éleveurs de Bretagne et des Pays de la Loire font état de pertes conséquentes, notamment près d'éoliennes. À Linoc, François Coulon, Europe 1.
Europe 1.
À suivre dans le journal, l'image du week-end nous vient de Londres. Plus d'un million de personnes dans les rues pour demander un nouveau référendum. On vous dit tout dans le journal de David Toucan.
Il est 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan et ce nouvel épisode dans le feuilleton du Brexit.
Oui, le peuple pro-européen est-il en train de se réveiller au Royaume-Uni ? L'image des rues de Londres envahie d'une marée humaine, plus d'un million de manifestants ce week-end. Et puis, il y a cette pétition sur le site du Parlement britannique. Elle demande au gouvernement de renoncer au Brexit. 5 millions de personnes l'ont signée en à peine 5 jours. Chanel Petit.
On n'a jamais connu une pétition si populaire sur le site du Parlement britannique. 1 million de signatures la première journée, 2 millions le lendemain, 5 au bout de 4 jours, engouement tel que le site du Parlement s'est retrouvé hors service. Le signe d'un rejet en masse du Brexit, selon Simon Thompson du mouvement pro-européen People's Vote.
Les gens se sont rendus compte de ce que c'est que le Brexit.
Ils voient que les promesses de 2016 ne peuvent pas être tenues. Ils sont frustrés et en colère et ils se disent maintenant « je ne peux faire aucun projet, assez, c'est ridicule ».
Le gouvernement s'est engagé à répondre à cette pétition. Une avancée, se réjouit David Hardman, membre d'un groupe pro-européen.
Cela garantit que le gouvernement débattra du sujet. Le gouvernement a très peur du peuple et il a besoin de se rendre compte que les Britanniques se retourneront contre lui s'il valide ce Brexit.
Symbole de la tension qui règne dans le pays, la créatrice de la pétition a été menacée de mort sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé son compte Facebook.
Chanel Petit pour Europe 1.
La loi santé sera adoptée demain à l'Assemblée nationale.
Et oui, zoomons sur un aspect méconnu de cette réforme, le volet numérique, avec notamment, d'ici quelques années, la disparition des ordonnances en papier. Mélanie Gomez.
L'une des grandes mesures, c'est l'ouverture d'ici 2022 par chaque citoyen de son espace numérique de santé. C'est-à-dire que chacun disposera d'un compte personnel unique, une espèce de bibliothèque virtuelle qui contiendra à la fois son dossier médical complet, mais aussi qui lui permettra d'avoir accès à un portail de services, par exemple pour prendre des rendez-vous médicaux en ligne ou encore à des applications de santé validées. Ensuite, la loi de santé donne aussi le feu vert aux ordonnances de médicaments dématérialisées. Ça devrait vraiment changer la vie des patients, comme l'a expliqué au micro de Pierre de Villeneau, le député La République En Marche, Thomas Meynier.
Vous sortirez sans ordonnance papier de chez votre médecin traitant et vous pouvez imaginer que le pharmacien aura déjà préparé vos médicaments avant d'arriver. Quand vous partez en week-end en vacances, vous pourrez très bien vous faire dépanner dans la pharmacie du coin. C'est un vrai plus.
Enfin, autre nouveauté, certains paramédicaux pourraient être autorisés à pratiquer leur activité à distance grâce à la vidéo, c'est le télésoin. Alors bien sûr, il y aura des règles, mais par exemple, cela pourrait permettre à une infirmière de suivre à distance, un jour sur deux, un patient chez qui elle est obligée aujourd'hui d'aller tous les jours contrôler la cicatrisation d'une plaie.
Les explications de la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.
Et le deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020, c'est ce soir, David.
Oui, 20h45 au Stade de France, les Bleus affrontent l'Islande, un adversaire plus redoutable que la Moldavie la semaine dernière. Écoutez le sélectionneur Didier Deschamps.
Je sais très bien la qualité de cette équipe islandaise. Leur état d'esprit, c'est un peu dans leur ADN, c'est une équipe qui lâche rien, qui donne rien. Donc voilà, on va avoir du répondant. Ça, c'est une évidence.
Le champion du monde, Didier Deschamps, au micro européen de Cyril Delamorinerie.
Allez les Bleus, allez David Doucan.
Comme vous dites.
Merci beaucoup.
À demain.
Si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple. Hein. Vous nous appelez 3921 ou alors vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 8h11, Nico, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet.
C'est une tragédie, Vincent Hervouet. Le pire massacre commis au Mali, ça s'est passé samedi dans le centre du pays.
Oui, bonjour Nico, bonjour Céline, bonjour à tous. 134 morts, donc des civils taillés en morceaux, un village brûlé vif, ajouté une bonne cinquantaine de blessés. Ce n'est pas au Oradour, mais c'est pas non plus une armée étrangère qui a massacré ces villageois. Ce sont leurs voisins, un groupe d'autodéfense, l'ethnie d'à côté, des Dogons contre des Peuls. Alors on peut voir ça de haut, de loin, on en parlait à peine. La rivalité ancestrale des agriculteurs et des éleveurs. Et puis ces ethnies sont après tout chez elles, le Sahel au Sahélien. Comment expliquer autrement que la presse européenne n'en dise pratiquement pas un mot ce matin? Les femmes et les enfants d'Ogossagou ne provoquent pas de haut-le-cœur, comme dans les territoires palestiniens par exemple, où chaque victime est décomptée, documentée, comme si elle saignait sur notre paillasson. Ogossagou existe à peine, mais les Français ne devraient pas l'ignorer. Ça fait 6 ans que les parachutistes français ratissent le Mali. Ça va leur prendre encore 15 ou 20 ans. Ils sont 2700 à traquer les djihadistes, pas les chasseurs Dogons qui mènent des expéditions punitives contre leurs voisins Peuls. Les Français se gardent soigneusement d'interférer dans ces querelles qui ont quand même fait 500 morts l'an dernier. Et pourtant, c'est la même histoire.
Comment ça, c'est la même histoire? Expliquez-moi.
C'est l'histoire d'un État qui est faible, corrompu, tenu à bout de bras par l'étranger, qui a abandonné des pans entiers du territoire, miné par le travail de sape des islamistes. Les Dogons suspectent les Peuls de pactiser avec ces islamistes. Et c'est pour ça qu'ils ont monté cette milice d'autodéfense. Et la milice avait de bonnes raisons de détester Ogossagou, où vivaient d'anciens rebelles démobilisés après les accords de 2015. Il y a une semaine, dans cette même région du centre du Mali, une caserne a été attaquée et les djihadistes ont fait une trentaine de morts parmi les soldats. Les miliciens Dogons sont donc passés à la contre-attaque, d'autant plus motivés qu'ils comptaient s'approprier les terres de leurs voisins détestés. Hier, la milice a été dissoute. Le chef d'état-major de l'armée limogé, tout comme les patrons de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Ça ne règle rien, mais à Bamako, comme à Paris, quand l'État est impuissant, il saque les boucs émissaires. On va voir maintenant si l'ONU en fait autant. Ce week-end, les ambassadeurs du Conseil de sécurité étaient justement au Mali pour inspecter la MINUSMA et ses 14 000 hommes. Ils sont tombés à pic en plein nettoyage ethnique. À la fin de la semaine, l'ONU doit décider d'arrêter ou non les frais. À mon avis, c'est trop tard. Le Mali est un nouvel Afghanistan.
Vincent Hervouet sur Europe 1 pour l'édito international.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Audrey Crespo-Mara, vous recevez Ségolène Royal ce matin.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Elle a défendu la démocratie participative il y a plus de 10 ans. Alors quel jugement porte-t-elle sur le grand débat? Prometteur ou interminable? Ségolène Royal, ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique, sera mon invitée.
Cantelou prend déjà des notes, au moins dit. A tout de suite.
Bon réveil à tous, il est 8h14 sur Europe 1. Il est 8h17, Nicolas Aliagas.
L'ambassadrice des pôles et ancienne ministre de l'Environnement, notamment Ségolène Royal, et votre invitée Audrey Crespo-Mara. Bonjour mesdames.
Bonjour Ségolène Royal.
Bonjour.
19e samedi de mobilisation, 4 mois de crise et François de Rugy annonce une hausse de sans doute 5 à 6% du tarif de l'électricité au mois de juin. Est-ce la bonne réponse aux revendications des Gilets jaunes ?
C'est incompréhensible de faire une annonce comme celle-ci, alors même que le grand débat est en cours. Et qu'il a clairement été dit par le gouvernement que la question de la hausse des prix, et notamment du prix de l'énergie, hein, n'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une exaspération et d'une révolte contre la taxe carbone, c'est-à-dire contre une hausse du prix de l'énergie. Donc je crois qu'il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs.
Si François de Rugy annulait la hausse de 5% d'électricité qui était prévue, hein, vous ne croyez pas que le Conseil d'État rétablirait à nouveau cette hausse dans la foulée, comme ça avait été le cas quand vous étiez au pouvoir en 2014 ?
Mais je ne crois pas, parce que si ça avait été le cas en 2014, c'était parce que j'avais arrêté les hausses d'énergie, et volontairement, c'est-à-dire en attendant que le Conseil d'État tranche une bonne fois pour le passé, c'est-à-dire sur la base des anciens textes, mais il n'a pas pu réaugmenter les tarifs, puisque le mode de calcul de l'énergie avait changé. Mais là, on rentre dans une nouvelle phase, puisque ce qui est exaspérant aujourd'hui pour les millions de citoyens qui payent leur électricité, c'est qu'il y a d'un côté une hausse des prix qu'ils ne comprennent pas, et de l'autre, un blocage des minima sociaux. La hausse du prix de l'énergie doit aussi faire l'objet d'un processus démocratique. C'est-à-dire les consommateurs ont le droit de comprendre pourquoi et comment l'énergie augmente. Je rappelle quand même que EDF et Engie sont des grandes entreprises où l'État est actionnaire.
Et l'État donc, doit jouer ce rôle de pression.
Et l'État doit jouer son rôle de clarification et surtout son rôle de maîtrise de la hausse du prix de l'énergie. Ces entreprises ne doivent pas échapper à ce que font les autres entreprises. C'est-à-dire quand on veut maîtriser ses prix, on peut aussi faire des économies de fonctionnement en interne.
Ségolène Royal, avec son grand débat, Emmanuel Macron a plus de 10 ans de retard sur la démocratie participative que vous défendiez lors de la présidentielle de 2007. Ce débat, vous le trouvez prometteur ou interminable ?
C'est un débat prometteur, mais qui soulève beaucoup d'attentes. Donc il faut que l'issue de ce grand débat soit à la hauteur des attentes. La première des attentes, c'est un diagnostic partagé. Et tout prouve que chaque fois que cette étape est passée sous silence ou ne fait pas l'objet d'un soin suffisant, les étapes suivantes sont difficiles. Donc il faut d'abord que les citoyens aient vraiment la conviction que ce qu'ils ont à dire, que ce qu'ils ressentent, que le dysfonctionnement de la société a bien été pris en considération, a bien été compris. C'est le diagnostic partagé qui permet ensuite des décisions co-construites et des décisions qui sont comprises et donc qui apaisent à nouveau, qui rétablissent une harmonie dans la société française.
La fin du grand débat était prévue le 15 mars, hein. On est déjà le 25 mars et on n'a toujours pas la moindre idée des propositions qui seront retenues par le gouvernement. Comme disait votre ami Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ?
Non, je ne dirais pas ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans des logiques de dénigrement ou de critique du processus, parce qu'on a besoin que la France retrouve le chemin de l'apaisement. Et par conséquent, cette dynamique qui était difficile, hein, le succès n'était pas forcément assuré, c'est un effort considérable qui doit maintenant déboucher sur des décisions.
Alors justement, le gouvernement doit-il revenir sur sa décision d'août dernier et réindexer les pensions de retraite ?
Je crois que le Premier ministre l'a évoqué, donc c'est quelque chose qui est incontournable.
C'est incontournable de réindexer les pensions
de
retraite.
Pourquoi ? Parce que sinon, il y a une perte du pouvoir d'achat. Et on ne peut pas accepter que des gens qui ont travaillé toute leur vie ne puissent pas boucler leur fin de mois à partir des cotisations qu'ils ont payées. D'un côté, parce qu'il y aurait une hausse des prix, et de l'autre, parce qu'il y aurait un blocage des minima sociaux et des petits revenus. Ça, c'est incompréhensible.
Donc c'était une erreur de désindexer les pensions de retraite en août dernier.
Bien sûr, oui.
Ségolène Royal et Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et de Place Publique aux Européennes, dit que la gauche n'arrive plus à parler au peuple depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la réélection de François Mitterrand en 1988. Vous partagez son diagnostic ?
Non, je pense que c'est jamais utile en politique, surtout quand on se lance pour la première fois, de jeter un regard caricatural sur les 30 ans qui se sont écoulés. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il nous parle d'aujourd'hui et de demain. Mais bon, c'est une petite erreur de manque d'expérience, je pense.
Le PS est d'ailleurs devenu tellement faible qu'il se rallie à Raphaël Glucksmann, qui n'est pas issu de son parti pour les européennes.
Non, mais qui est quand même dans la mouvance.
Qui est neuf et qui n'est pas issu de votre parti.
Oui, mais c'est bien, ça prouve qu'il faut un renouvellement.
Et que le PS est très faible.
C'est une bonne chose qu'il y ait un renouvellement.
Très, très faible.
Oui, il est très faible. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet.
La faute au quinquennat de François Hollande ?
Il y a beaucoup de fautes, mais c'est au PS de faire le diagnostic de cet affaiblissement.
Ségolène Royal, vous vouliez un rassemblement, rassembler la gauche, mais vous dites que ce qui fait obstacle, c'est la bataille d'ego entre Jadot, Glucksmann et Hamon pour les européennes. Alors, quelle liste allez-vous soutenir ?
Je verrai, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ça faisait longtemps que j'avais fait ce diagnostic de la transition écologique qui devait également être sociale. La sociale écologie, donc j'en ai parlé déjà dans la campagne présidentielle de 2007. Donc moi, je suis très heureuse de voir que ce processus de prise de conscience sur la place de la protection de l'environnement, à la fois comme outil de justice sociale, mais aussi comme outil de ressort économique, est enfin pris en considération à peu près par tout le monde. J'entends des leaders politiques qui n'ont jamais parlé d'écologie de leur vie et qui tout d'un coup découvrent l'ampleur du problème et l'importance du sujet, et je m'en réjouis.
Mais vous dites, je soutiendrai le programme le plus écologique. Vous n'êtes pas convaincu que ce soit Yannick Jadot ? Vous lui aviez proposé un tandem.
Non,
mais
moi, je ne rentre pas dans cette logique.
Vous lui aviez proposé un tandem, je rappelle.
Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le cadre de ce grand rassemblement, justement, autour du social et de l'écologie, mais aussi de l'efficacité économique. N'oublions pas les trois piliers. Souvent, le troisième est oublié. Moi, je ne l'oublie pas. Je pense, en effet, que la question environnementale est aussi un facteur de création d'activités et d'emplois. Et par conséquent, je verrai. On verra.
C'est plus l'évidence.
Non,
je n'ai pas... Qu'il n'a pas voulu de vous sur sa liste,
parce que maintenant c'est intégré par toutes les listes.
Ouais.
Et c'est une bonne chose, mais il faut que ça soit fait de façon convaincante et honnête.
Et pourriez-vous préférer la liste La République en marche, emmenée par la ministre Nathalie Loiseau ?
Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne me positionne pas sur ce sujet. Mon combat, c'est la question environnementale, vous le savez. Et par conséquent, je verrai ce qui se passe.
Mais votre priorité aussi, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'arriver en tête aux européennes. On voit que les listes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont coude à coude.
Mais ça, c'est une des conséquences seulement.
Ouais.
Ça ne peut pas être un objectif. L'objectif, c'est quelle Europe nous voulons pour demain et comment cette Europe échappe au repli nationaliste, échappe à la montée des violences, échappe à la régression économique, à la régression sociale, à la régression environnementale. C'est ça l'enjeu de demain. Et sans doute d'ailleurs qu'au lendemain du vote pour les élections européennes, il y aura des recompositions politiques en fonction de ce qui se passera au Parlement européen.
Vous parliez des objectifs de l'écologie depuis que Nicolas Hulot a démissionné. Vous n'avez pas l'impression que l'écologie est passée au second plan des préoccupations du gouvernement ?
Un peu. Il y a d'ailleurs un contraste entre l'engagement du président de la République sur l'écologie au niveau diplomatique et international, où il y a une forte présence de la France, et le ralentissement des décisions au niveau national. Donc je pense qu'il faut faire converger, augmenter l'ambition de la politique nationale française en matière environnementale pour que la parole internationale soit crédible. Mais j'espère que ce sera une des conclusions du grand débat.
Ségolène Royal, dans quelques heures, Nathalie Loiseau, donc, qui prend la tête de liste La République En Marche, va quitter le gouvernement, ce qui impliquera une forme de remaniement. Si on vous le proposait, accepteriez-vous un poste de ministre ?
Mais je ne réponds jamais à ce type de questions.
Même pas que, là, vrai, même pas ce matin ?
Non, je ne fais pas de politique fiction. Je ne réponds pas aux questions qui ne me sont pas posées.
Mais il y a déjà
beaucoup
exclu.
De questions qu'elle
ce n'est
répond.
Pas exclu.
Mais je ne réponds pas aux questions qui ne me sont pas posées.
Bon, bah, vous reviendrez. Merci, Ségolène Royal.
Merci, mesdames. On retient en tous les cas ce que vous avez dit, il faudrait réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. C'est ce qu'avait dit aussi sur notre antenne le Premier ministre Édouard Philippe il y a 10 jours.
Exactement.
Merci d'avoir été notre invité, Ségolène Royal.
Merci.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol à 8h30, l'essentiel de l'info, la petite phrase polémique d'Emmanuel Macron après la blessure d'une militante de 73 ans samedi à Nice lors de la manifestation des Gilets jaunes. Vous entendrez son avocat très remonté contre le président de la République et puis cet appel que vous révèle Europe 1 ce matin, celui des maires ruraux. Citoyens, défendez vos communes, engagez-vous. À tout de suite.
Il est 8h26, à tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Dabiker, il arrive, il est déjà en studio pour la revue de presse. Le mot-clé de votre revue de presse ce matin, David ?
Allez, c'est cadeau. Cadeau parce que le président de la République a offert à Xi Jinping, en visite en France, un livre des plus anciens textes du philosophe chinois Confucius. Et je vais faire une revue de presse à la sauce Confucius ce matin. Mmh.
Très bien. Très remontée, la sauce ? Très pimentée ou pas ?
Sauce soja.
8h40, l'insortable monsieur Canteloup arrive. Quand il met sa sauce, ça envoie du lourd. Tout de suite, la revue de presque.
Et avant, la météo avec Laurent Cabrol.
Oui, et avec une parenthèse nuageuse que nous traversons en ce moment.
Bien.
Et qui est provisoire. Et à partir de mercredi, nous retrouvons un soleil quasi généralisé sur la France. Et le prochain congé de fin de semaine, samedi et dimanche, à l'heure d'été, nous passerons à l'heure d'été, sera un congé qui s'annonce très doux et ensoleillé pour l'instant.
Température fraîche ce matin.
Ce matin, il fait frais. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention, chers amis, parce que le vent est toujours là, 30, 40, 50 km/h. Ce sont des vents de nord qui accentuent l'impression de fraîcheur. Et même si je vous dis qu'il fera 10 degrés à Verdun et 12 à Paris cet après-midi, 14 à Rennes, 15 à Lyon, 17 à Toulouse et 21 à Nîmes, eh bien dites-vous qu'avec ces températures, vous aurez quand même bien frisquette. En ce qui concerne la couleur du ciel, ce sont les nuages qui vont se mêler au ciel bleu avec ici ou là peut-être quelques gouttes sur la Lorraine, l'Alsace et sur les Ardennes, mais dans l'ensemble il n'y aura pratiquement pas de pluie, des nuages un peu plus présents sur les Alpes du Nord, sur le Rhône et sur l'Auvergne, et puis des éclaircies disons très larges sur le littoral de la Manche, sur le sud-ouest et le bassin méditerranéen, mais sur Paris comme sur la vallée de la Loire et le Poitou-Charente, les éclaircies seront un petit peu plus discrètes.
Merci Laurent, à tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 25 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Saliagas.
Une nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron qui ne passe pas. Dans un entretien à Nice ce matin, le chef de l'État souhaite à la militante d'attaque un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Selon ses termes, cette femme de 73 ans a été blessée à la tête lors d'une manifestation de gilets jaunes samedi. Sa famille va déposer plainte aujourd'hui pour violence volontaire. Le porte-parole d'attaque réagit ce matin à la phrase du chef de l'État.
On est habitué à ce qu'Emmanuel Macron sorte des propos méprisants comme ça. Il est en train de nous dire qu'en gros, elle l'a bien cherché parce qu'elle était là alors que le rassemblement était interdit. Je suis en colère et je pense que je pourrais dire que lui, il a un petit peu de sagesse parce que c'est lui qui a la capacité de prendre des décisions. On prend ça comme une forme de mépris et comme une forme d'arrogance d'Emmanuel Macron qui croit toujours qu'il s'adresse à des enfants. Donc il va expliquer à une militante qui a 50 ans de militantisme derrière elle qu'il serait sage, comprenez, rentrer chez elle. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il ferait bien d'en prendre conscience.
Raphaël Prado, porte-parole d'attaque avec Aude Vernuccio. Un an des élections municipales, l'Association des maires ruraux de France lance un appel sur Europe 1, un appel aux administrés afin qu'ils s'engagent massivement pour les élections. Les élus signent une tribune sur un site internet. Yvan Lubraneski est président des maires ruraux de l'Essonne. On l'écoute.
Le message, c'est de s'engager massivement pour la commune. Et on publie cette tribune un an avant parce qu'on croit vraiment à l'intelligence collective. La commune, c'est un lieu où la démocratie peut vraiment être une pratique. Et si on s'implique collectivement, qu'on travaille réellement un projet en amont, on peut, à l'occasion des élections municipales de 2020, avoir un vrai renouvellement des pratiques politiques. C'est une initiative hors des partis. Nous, on va mettre en relation les gens en espérant qu'il y ait beaucoup de listes participatives qui se montent un peu partout en France.
Propos recueillis par Sébastien Krebs. La France déroule le tapis rouge pour le président chinois Xi Jinping. Hier soir, il était reçu par Emmanuel Macron près de Nice pour un dîner privé. Il est attendu aujourd'hui à Paris, dîner d'État ce soir à l'Élysée. Dans quelques instants, David Abiker nous en parle dans la revue de presse. Benjamin Netanyahu promet de riposter avec force, déclaration depuis les États-Unis du Premier ministre israélien, après le lancement d'une roquette qui a touché ce matin une maison au nord de Tel Aviv. 5 personnes ont été blessées. Donald Trump blanchi par les premières conclusions du rapport Mueller, près de 2 ans d'enquête qui conclut à l'absence d'entente avec la Russie lors de l'élection présidentielle de 2016. Un mot de football, les qualifications à l'Euro 2020. Les Bleus retrouvent ce soir le Stade de France et ses supporters. Ce sera face à l'Islande à 20h45.
Europe 1. Nico Siriagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse.
David, ce matin, la Chine à la une de tous les quotidiens.
Ou presque. La Chine tisse sa toile, titre le Télégramme, qui fait peut-être allusion à la route de la soie. Qui sait, pour le Figaro, la visite du numéro 1 chinois signe le réveil de l'Europe. Alors que pour l'Opinion, l'Europe est désunie face aux défis chinois. Dans la montagne, Florence Chétodal résume ainsi les enjeux de cette visite. L'Europe se demande si elle ne va pas se faire croquer tout cru par ce géant asiatique glouton. Alors en marge de cette visite officielle chinoise, le président français a donné à Nice ce matin une interview dans laquelle il explique le rôle déterminant que la France entend jouer dans les relations sino-européennes. Macron donne également des conseils de sagesse à la septuagénaire et militante d'attaque blessée, vous en parliez à l'instant, par une charge de police samedi en marge de la visite officielle chinoise. Je le cite, « Je souhaite la quiétude à sa famille, mais pour avoir la quiétude, il faut avoir un comportement responsable. » Et le président poursuit un peu plus loin, « Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. » Des conseils de sagesse donc. C'est à croire que le président a lu très attentivement le livre ancien qu'il a offert à Xi Jinping en cadeau de bienvenue en France, la plus ancienne traduction française des textes du penseur chinois Confucius. Confucius, des conseils de sagesse à cette dame dont Libération rappelle qu'elle se remet laborieusement d'une fracture du crâne. Ces conseils de sagesse étaient-ils nécessaires au risque de trahir une nouvelle fois le tempérament provocateur d'Emmanuel Macron qui aurait peut-être gagné à se taire? C'est le moment justement de citer Confucius. Le silence est un ami qui ne trahit jamais.
Toujours de bons conseils, le philosophe Confucius. Ça marche avec l'actualité politique française ou pas, David ?
Ça pourrait aussi marcher, Confucius. Prenons Anne Hidalgo, qui fait la une de Libération. Le quotidien nous parle de sa résurrection. Hidalgo outragé, Hidalgo mal barré, mais Hidalgo ressuscité. L'Opinion confirme également ce matin. Hidalgo, paradoxalement, toujours vivante. L'Opinion qui cite les résultats du sondage publié hier par le journal du dimanche, qui la place en tête devant tous les autres candidats à la mairie de Paris. Et ce, malgré le fiasco Vélib, l'échec Autolib, la pollution, les rats, la mer sortante profite de sa constance en matière de politique de circulation, de projets qui vont très prochainement sortir de terre et de la multitude de candidats qui, dans l'opposition, briguent le fauteuil de maire. Qu'en dirait Confucius ? Que notre plus grande joie n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Ceci dit, Confucius n'a pas dit que des choses intelligentes. Par exemple, le cœur d'une femme est aussi instable qu'une goutte d'eau sur une fleur de lotus. Ça s'appelle une connerie. Une autre femme politique fait mentir le philosophe ce matin. C'est Nathalie Loiseau qui conduira sans doute avec poigne, en tout cas il l'en faudra, la liste de La République en marche aux européennes dont le casting, nous raconte le Figaro, se finalise en ce moment. On parle d'y voir figurer un ancien ministre des Affaires européennes ou le chroniqueur Bernard Guetta. Nathalie Loiseau qui lancera sa campagne samedi prochain à Aubervilliers.
Il y a dans l'actualité ce matin les batailles politiques, municipales et européennes et la bataille de Verdun.
Eh oui, on la retrouve, la bataille de Verdun, absente d'une présentation du programme d'histoire de première. Et c'est l'émotion, voire l'indignation qui s'exprime dans les quotidiens de l'Est. Le Républicain Lorrain ou encore l'Est Républicain parle de l'opération déminage du ministre de l'Éducation nationale après le coup de gueule du maire de Verdun et de son adjoint. Rassuré, expliqué que si Verdun n'est pas nommé dans le document du ministère, il est étudié en troisième et sera bien sûr étudié en première au même titre que la bataille de la Somme. Mais quelques semaines après les commémorations de la Grande Guerre, explique l'Est Républicain, Verdun est bien vivante dans les cœurs et les esprits. Là encore, on pourrait citer Confucius, toujours de bons conseils quand il s'agit d'apprendre. Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux.
Après Verdun, comment trouver la paix du corps et la paix intérieure ? C'est dans les pages du Figaro.
Un Figaro très zen ce matin qui nous livre les secrets des couples qui durent. Une de ses recettes de sagesse, c'est de faire des projets, même les plus petits projets. Partir en balade, partir en week-end, mais toujours aller de l'avant à deux. Le Figaro qui, plus que de sagesse, nous parle d'une nouvelle folie. Le Kundalini, un yoga popularisé dans les années 70, auquel sont accros de plus en plus de Français. Une méthode inventée par le yogi Bayan au départ pour aider les hippies californiens à se désintoxiquer. Intoxiqué des champignons hallucinogènes et du LSD. Le Kundalini, je cite le Figaro, se pratique vêtu tout de blanc et la tête couverte d'un turban immaculé. Il fait émerger l'énergie des chakras intérieurs qui expriment les désirs égocentriques vers les chakras extérieurs qui ouvrent à l'amour et au soi divin. La méthode promet à peu près tout, santé, équilibre, succès et libido, ce qui ferait dire à Confucius « Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Ça vaut pour le yoga comme pour le reste.
Home, frère David Abiker, merci. C'était la revue de presse
sur Europe 1.
Il arrive Nicolas Conteloup. La revue de presse avec Julie dans un instant. Il va tout décrypter de la matinale, de l'actualité et certainement de l'invité politique, puisque Ségolène Royal était l'invité d'Audrey Crespo-Mara. A tout de suite.
Il est 8h39, à tout de suite avec Nico Sadiagas sur Europe 1. Il est 8h40.
Commencer la semaine avec Europe 1, c'est bien, mais commencer la semaine avec Nicolas Canteloup sur Europe 1, c'est mieux. Voici Julie, la revue de presse, et Nico Canteloup. A tout de suite.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio au Grec. Qu'est-ce Pomara, j'arrive pas à le dire.
C'est pas grave.
Et Ségolène Royal.
On avait compris.
Allez, Audrey et Ségo.
Ségolène Royal. François de Rugy a annoncé la hausse du prix de l'énergie très bientôt de 5%. C'est une bonne idée?
Écoutez, mon presse pour marrant, je n'aime pas dire du mal de quiconque. Ça, vraiment, ça me coûte de dire du mal de François de Rugy. Si, vraiment, ça me coûte de dire que c'est un gros naze, que jamais je n'aurais pris cette décision. Moi, souvenez-vous, oui, j'aime bien parler de moi. En 2014, j'avais arrêté ce type de hausse.
Madame Royal, le grand débat. Est-il prometteur ou interminable? Emmanuel Macron a quelque part 10 ans de retard sur votre démocratie participative.
Oh oui, ça c'est bien de... C'est bien, Mme Crespo-Mara, de failloter. Oui, c'est vrai, j'ai 10 ans d'avance. Hein. Je suis une espèce de super Laurent Cobrol. Hein. Je fais des prévisions à 10 ans. Voilà.
Raphaël Guzman a déclaré que le Parti Socialiste ne parle plus à la gauche depuis 30 ans, Madame Royal.
Oui, alors là, je suis du Barbadine. Je crois qu'il ne faut pas parler comme ça. Il n'a pas d'expérience, le puceau. Hein. Non, écoutez, c'est un jeune con. C'est une erreur de boutonneux. Hein.
Mais vous soutiendrez plutôt la liste Glusman, Jadot, Hamon
Non, écoutez, je n'ai pas envie de dire du bien de Yannick Jadot.
Non, mais vous êtes plutôt Jadot, pourtant.
Je vote en touche. Non, j'ai pas envie de me prononcer. Je ne dis rien. Je ne me prononce pas. J'ai envie encore d'être dragué, voyez-vous. Je reste chou. Hein, je ne dirai du bien que de moi. Hein, vous avez compris.
Est-ce que si on vous propose un poste de ministre, vous accepteriez?
Écoutez, ça fait longtemps que je ne réponds pas à ce genre de questions. Ministre, non. Écoutez, c'est pas une question qui m'intéresse. Néanmoins, ça. Je reste joignable sur mon portable par courriel, par carte postale, par pigeon voyageur. Hein. Voilà, je suis à l'écoute.
Merci, Mme Royal.
Merci à toutes les deux. Allez, on démarre tout de suite avec l'acte 19 des Gilets jaunes qui s'est déroulé sans trop de violence, on peut dire.
Eh merde, franchement. Eh bravo, bravo, franchement. Bravo les Gilets jaunes. Bande de pignouf.
Gérard Collomb, bonjour. Ah bah dites donc, vous avez l'air remonté contre les gilets jaunes ce matin.
Oui, oui, bonjour Madame Julie. Écoutez, bonjour. Franchement, bonjour, oui, à votre brigade matinale. Non, mais franchement, ça me saoule. C'est vraiment des cons, les gilets jaunes. Il y avait une occasion en or de dégager Christophe Castaner. Mais monsieur Apathy, il suffisait de cramer deux voitures et de péter un simple abribus. C'est quand même pas la mer à boire, franchement. C'est vraiment des abrutis. Hein, vous êtes tous d'accord autour de cette table? Je vous vois opiner du chef.
Qui? Jean-Michel Apathy, bah, ouais, il opine pas du tout, Apathy, non, non.
Monsieur Yagas, qui est courageux, opine du chef aussi.
Non, attendez, et surveillez votre langage aussi, hein, monsieur Collomb.
Je
vous
ai déjà vu opiner.
Mais pas du tout. Vous confondez avec quelqu'un d'autre, monsieur le ministre.
Oui, c'est vrai.
Bon, allez, monsieur Collomb.
Oui, non, mais franchement, ils font ça tous les week-ends. Mettre le bordel, franchement. Et maintenant que c'est utile, ça pourrait permettre de virer Castaner. Ils sont pas foutus de casser une demi-vitrine. C'est tout juste si ils ne les ont pas lavés avec une raquette et du spritz, spritz à vitre. Bande de grosses tarlouses.
Mais enfin, monsieur Collomb, vous devriez vous réjouir que l'acte 19 ait été moins violent que la semaine dernière,
mais
quand même.
Mais écoutez, je m'en tamponne le coquillard avec une pâte d'alligator femelle. Vous savez quoi, je pense que les gilets jaunes sont de mèche avec le gouvernement. Christophe Castaner a l'air d'avoir été compétent du coup ce matin à cause de ces gilets jaunes. Non, franchement, félicitations. Ah, vous pouvez être fiers de vous.
Bon, écoutez, vous nous fatiguez, on va vous laisser là, je crois.
Parce que maintenant, hein, Emmanuel Macron, il faut ouvrir les yeux, va le trouver merveilleux. Hein. Ils ont relancé leur couple. Hein, franchement, ça me dégoûte de les imaginer faire des trucs ensemble comme des plans de maintien de l'ordre pour samedi prochain. J'ai envie de bégère. Écoutez, je vais me consoler devant une comédie romantique et un pot de Nutella.
Oh, la crise de jalousie. Allez, c'est bon. Merci, monsieur Collomb. Le président chinois Xi Jinping est en France. Il dîne ce soir à l'Élysée avec Emmanuel Macron et, parmi les invités, Jean-Pierre Raffarin.
Oui.
Bonjour, monsieur Raffarin.
Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre Raffarin, RRAFFRIN. Oui, je suis le spécialiste de la Chine en France. The specialist of the Chinois. Même si je ne veux pas, pardonnez-moi ce jeune pot, même si je ne veux pas être cantonné dans ce rôle.
Oh, sublime.
Très beau jour de nouveau. Permettez-moi, c'est Jean-Michel Apathy, premier dissident chinois. Xi Jinping, il faut rire, c'est un dictateur. On a les chocottes devant les Chinois. Et j'ai pas envie, je vous le dis tout de suite, de faire chinois deuxième langue. Je veux faire basque. Et Raffarin, c'est un faillot, c'est un bandu.
Il est peut-être est-il juste, mon cher Jean-Michel, il est passionné par la Chine, comment dit-on, c'est un philo.
Oh,
un chino, un sino-chino, un cinéphile,
en fait.
Cinéphile chino, philo-chino, si-phile.
Un cinéphile.
Monsieur, cinéphile, tout simplement. Un peu de respect. Excusez-les, je m'adresse à lui. S'il m'entend quelque part en France, excusez-les, votre Altesse Zizépine. Je vous rappelle, chers amis d'Europe 1. Oui, vous souriez autour de cette table. Mais je vous rappelle que c'est 1,4 milliard d'auditeurs potentiels, la Chine.
Ah, ça serait sympa. Ah, oui.
Alors, bah, révisez. Oui.
D'accord. Alors, petite bizarrerie quand même, ce soir au dîner, en l'honneur de Xi Jinping à l'Élysée, il y aura Hélène Rollès d'Hélène et les garçons, car le président chinois en est fan.
Tout à fait. Vous savez, il faut savoir que pour les Chinois, leur chanteuse préférée, c'est Mireille Mathieu. Les Chinois, leur film préféré, c'est Hélène et les garçons. Et leur politique préférée, c'est moi. Donc quelque part, c'est vrai que je me demande quand même si les Chinois n'ont pas un peu des goûts de merde.
À bientôt, monsieur Raffarin.
Je vous en prie.
Bonne soirée à l'Élysée. Allez, on va parler avec le président Macron, justement, qui recevait donc hier à Nice le président chinois Xi Jinping à la villa Kérylos. C'est une somptueuse construction
magnifique,
d'inspiration grecque, Nikos, qui donne sur la mer. Bonjour, magnifique. Emmanuel Macron.
Nyeho. Non, je n'imite pas le chat. Nyeho à toutes et à tous. Oui, j'ai dîné hier avec le président chinois Xi Jinping à la Villa Kyrillos, vous l'avez dit, la plus belle maison grecque de France. Après, bien sûr, celle de M. Aliagas. Même si c'est vrai que le terme de maison de M. Aliagas est mal choisi. On devrait plutôt parler de villa, de demeure, d'hôtel particulier, voire de château, de relais, de manoir.
Oui,
de château, c'est plus exact.
D'accord, on voit tout à fait là. Oui. Alors, un mot de cette enquête ouverte. Alors, après que Geneviève Leguet, une gilet jaune de 73 ans, a été bousculée lors d'une charge de policier et à qui vous avez souhaité, dans Nice Matin, une forme de sagesse.
Non, mais franchement, non, mais vous allez me lâcher un peu, les jamais contents. Hein, je me suis trompé, vous n'êtes pas des Gaulois réfractaires, vous êtes des Gaulois casse-bonbons. Voilà. Alors, on fait rien, on nous engueule, pourquoi vous ne chargez pas? Alors, après, on charge, on nous engueule, dites donc, vous avez fait tomber mes mères. Hein, c'est de ma faute si les Black Box envoient une vieille piégée.
Non, mais enfin, la pauvre, elle a été gravement blessée à la tête quand même.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne fait pas d'omelette sans casser des vieux, voilà.
Oh, bien vu. Bien vu, allez. Monsieur le Président. Toujours à propos de Geneviève Leguet, cette femme de 73 ans victime d'une charge de policier, ça s'est passé à Nice donc. On est en duplex de Nice avec Éric Ciotti. Bonjour Monsieur Ciotti.
Tu t'avais connu la niche des anges à moitié nu.
Qu'est-ce que c'est?
Eh bien bravo, bravo. Oui, c'est un petit jingle qui permet de m'identifier. Eh bien, je dis bravo, la police attaque aujourd'hui de façon concomitante nos mamies, nos aînés, nos mémés sont vilipendés. On laisse les Black Blocs tout casser, mais on défonce à côté de soi la tête de nos grands-mères qui sont pourtant respectables. Et le gouvernement ne fait rien. Mais oui, et oui, mais excusez-moi de le dire. Donc je m'adresse à Geneviève, jeune vieille qui passait par là. Vous, avec votre caddie respectable, vous êtes victime de l'ignominie du gouvernement. Moi, franchement, je vous aurais protégé, madame Geneviève.
Alors attention, parce que Geneviève Leguet est militante d'extrême-gauche, un porte-parole d'attaque.
Ah bon?
Eh ben oui, oui, oui.
Ça existe une vieille gauchiste? Je croyais que dès qu'on vieillissait, on devenait de droite. Mais il n'y a qu'à regarder autour de vous dans ce studio. Eh bien, je dis bien fait pour ta gueule alors la vieille. Votez Macron!
Bon, merci Éric Ciotti.
Ça va pas, non.
Allez, celui qui doit être soulagé évidemment, c'est Christophe Castaner. On est en ligne avec lui. Bonjour Monsieur le Ministre.
Didier! Moi, je reprends une vodka pomme, tu prends quelque chose. C'est ma tournée. Ben, écoute, on a fait du bon boulot, on a le droit de fêter ça. Attends. Regarde, bon, la poule. J'ai ma cravate qui tombe dans mon whisky coca.
Monsieur Castaner, vous savez qu'on vous entend là, hein?
Il y a de la bonne meuf, non? Tu trouves pas?
Monsieur Castaner.
Regarde, il y a Julie d'Europe 1 qui danse. Ah non, merde, c'est Cathy Guetta.
Vraiment. Monsieur Castaner, justement, c'est Julie d'Europe 1 qui vous
J'entends
parle.
J'entends rien. Bouge pas, Didier, je reviens.
Allô? Oh là
allô
là. Oui.
Vous oui, allô, qui est à l'appareil? Ah,
c'est Julie.
Bonjour madame Julie. Écoutez, vous me prenez en plein débrief stratégie. Je suis actuellement dans mon bureau.
Ah oui, d'accord. L'acte 19 des Gilets jaunes s'est globalement bien passé à Paris. La presse nous dit que vous avez été ultra présent, impliqué, ne laissant rien au hasard.
Sylvie, pardon. Oui, 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 j'ai entendu le message du président. J'ai entendu la gueulante du président. En même temps, c'était compliqué de ne pas l'entendre. Bref. Vous savez, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie que samedi dernier, et c'est vrai que c'est assez éprouvant.
Bah, quelle conclusion vous tirez de cet acte 19, Monsieur Castaner?
Écoutez, je crois que le constat... Oui, j'arrive. Je crois que le constat est clair. C'est vrai que quand on travaille le samedi, c'est mieux. Maintenant, c'est quand même regrettable de devoir travailler le samedi. Pourquoi? Parce que les meilleures soirées, Monsieur Aliagas le sait, sont le vendredi soir et le samedi soir. Alors, je pose...
Oui, deux secondes. Oui, j'arrive, deux secondes. Oui, mais... Je dois bosser aussi un peu. Oui, mais
vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre.
Oui, pardon. Donc je disais, je pose la question. Pourquoi ne ferait-on pas les journées gilets jaunes le mercredi? Cela nous permettrait tous de sortir le samedi, de se prendre une caisse de façon raisonnable et avec modération, avoir sa gueule de bois raisonnable avec modération le lundi, se remettre tranquille au boulot comme le fait monsieur Aliagas le mardi, être vraiment opérationnel le mercredi.
C'est pas idiot. Faut voir.
On laissera vos conseils planning. Ouais. Hein, merci beaucoup. Ouh. On s'organise très bien tout seul. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Nicolas Canteloup, Julie et la revue de presse. Merci beaucoup. Et dès lundi, vous attaquez sur quoi, Wendy Bouchard, à partir de 9h sur Europe 1 dans le tour de la question?
On va parler santé avec les urgences en question. L'examen de la loi santé se poursuit à l'Assemblée nationale. On a parlé du numerus clausus, de la prescription sans ordonnance de médicaments par les pharmaciens. Tout ça, ça a été évoqué. Mais la réorganisation des services d'urgence qui sont à flux tendu, est-ce qu'on en parle vraiment? Vous verrez que les professionnels sont très sceptiques sur le sujet. Je reçois Patrick Peloux, médecin urgentiste, et Jean-Marie Godard qui vient de publier une enquête choc. Bienvenue aux urgences. Et je vous demanderai si pour vous, ces urgences garantissent-elles un soin de qualité? Et puis, je vais également évoquer avec Julie un des métiers préférés des Français. Ce ne sont pas les pompiers, pour une fois, mais les facteurs.
Les facteurs.
Parole de facteurs, publie l'historien formidable Jean-Pierre Guénaud. Ils sont 70 000 à travers la France, qui sont aussi des gens d'une telle proximité que leur métier se redéfinit et se redéploie. On en parlera avec eux et surtout avec vous, les amis, au 3921. On vous attend.
Le facteur, c'est comme le docteur. Il voit tout, il sait tout, mais
exactement, miroir de la société.
Merci beaucoup, Wendy Bouchard. À partir de 9h, on vous retrouve avec plaisir sur Europe 1.
À suivre également la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h55, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Saliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour faire un point sur la météo.
Hey. Fraîcheur et soleil et vent.
Et oui, c'est à peu près ça. Je dirais pas soleil, je dirais éclaircie assez large pour beaucoup d'entre nous. Non, bah attendez.
Je ne suis pas météorologue.
Faut être précis.
Et puis, vent, vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, j'ai pas suffisamment insisté sur le vent depuis ce matin, car il donne une impression de froid beaucoup plus rigoureux, ce froid, puisque nous allons vers des moins 5 degrés. Nous étions vers des moins 5 degrés du côté de Charleville-Mézières ce matin, avec le ressenti, et moins 2, moins 3 du côté de Saint-Dizier, d'Orléans, et même la région nantaise, il a fait froid, et il fait encore froid. En région parisienne, c'est du 3 sous abri. Voilà pour ce froid que vous ressentirez dans la journée, avec malheureusement beaucoup de nuages, mais cette fois les nuages vont gagner les régions du sud. Alors dans le sud ils seront beaucoup plus discrets, ce seront les éclaircies qui vont l'emporter, et puis sur la région du nord, là nous aurons un peu plus de couches nuageuses sur la Lorraine, l'Alsace, les Ardennes, la Franche-Comté, les Alpes du Nord, avec même quelques gouttes près des frontières. Voilà, c'est tout ce que l'on peut dire aujourd'hui. Demain ce sera presque pareil, mais ça ira beaucoup mieux mercredi.
A tout à l'heure, Laurent Cabrol, merci.
Nous sommes le lundi 25 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Paris aux accents chinois. Le président Xi Jinping s'y installe pour 2 jours, visite officielle et dîner d'État ce soir à l'Élysée. Un exercice diplomatique délicat pour le président de la République qui devra défendre l'Europe face au rouleau compresseur chinois. Quelle est la stratégie de la superpuissance orientale? Je posais la question à mon invité Thierry de Montbrial, le patron de l'Institut français des relations internationales.
Il y a ces entreprises qui sont achetées un petit peu partout, mais derrière ça, il y a une véritable stratégie. Les Chinois cherchent en particulier à prendre position dans le maillon faible de l'Europe, qui est la partie orientale de l'Europe, les anciens pays communistes particulièrement. Les Chinois essayent de s'implanter, de jouer un rôle politique dans cette partie de l'Europe.
Ils jouent sur les divisions de l'Europe, les Chinois ?
Bien sûr, mais tout le monde joue sur la division de l'Europe. Donc il y a une véritable stratégie quasi-impériale, si vous voulez.
Êtes-vous d'accord pour travailler plus longtemps ? La réponse dépend de votre âge. La réforme des retraites est clivante. Attention, la guerre des générations est lancée. Explication Axel de Tarlé, c'était à 7h43.
Si vous êtes actif, la réponse est non. Seuls 28% des 50-64 ans sont d'accord pour relever l'âge de départ à la retraite. Oui, c'est pas beaucoup. En revanche, si vous êtes déjà à la retraite, 55% favorable au relèvement de l'âge de départ. Ça ne les concerne plus. Et c'est là où on commence à avoir ce qu'on appelle une guerre des générations. Vous savez, c'est simple, hein, le régime de retraite, il n'y a que 3 paramètres. On peut ou faire payer les entreprises, mais ça on ne le fait plus, c'est mauvais pour la compétitivité. Donc il reste 2 solutions, ou on demande aux actifs de travailler plus, ou on demande aux retraités de gagner moins. Ça risque de faire des mécontents.
Football, le deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020, c'est ce soir au Stade de France, 20h45. Les Bleus affrontent l'Islande. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Ce qu'il ne fallait pas rater, merci de votre confiance. Bravo aux équipes techniques et éditoriales encore ce matin qui étaient sur le pont pour bien commencer la semaine avec vous. Prenez soin de vous. À demain, Céline Dacosta.
À demain, Nico.
Wendy Bouchard.
Je vous attends, les amis. 39-21, à demain, cher ami.
À demain.